Fred Saint-Gelais, salut!
Hey!
Comment ça va?
Ça va très bien vous-même.
Ça va très bien.
Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre demande.
Ben là, certain. Colin, merci pour l'invitation.
T'es entré ici, puis on a tout de suite pris tes conseils de technique sonore. Parce que c'est rare que souvent le monde vienne ici, puis ils font comme « Ah ouais, crime, c'est beau, là. Tu sais, vous êtes bien installé. Toi, t'as regardé la console, t'as fait « Ah oh, ouais ».
Ouais, ben, c'est sûr. Non, mais ça m'impressionne. Moi, j'étais un gars de gear pareil. Là, ouais, ouais. Je passe ma vie à vendre des pitons, là, à virer des pitons. T'sais. C'est pas super glamour. Mais
dit
c'est
comme ça, c'est
ça.
Sûr que c'est pas glamour, sauf que.
Je défends des pitons, par exemple.
Ah oui, c'est ça.
Bon, c'est... Les niaiseries ont déjà commencé.
Il y a des pitons plus glamour que d'autres. Mais dans le fond, là, ta job là, pour que le monde comprenne qu'est-ce que tu fais, là, parce que c'est quand même mystérieux, tu sais. T'es réalisateur, dans le fond, tu sais.
Ouais.
Surtout, est-ce que c'est comme ça que tu te décris?
Je sais pas. Je pense que oui, mais dans ma demande de passeport, il est marqué musicien.
Musicien. Okay. Musicien.
Bon.
Tu sais, parce que dans ma tête, il n'y a rien d'autre qui serait arrivé si ça n'avait pas été de la musique.
Tu fais de jouer de la musique à la base, là, faire de la musique.
Mais il y a beaucoup de monde qui se demande c'est quoi un réalisateur parce que c'est pas clair. Il y en a qui réalisent des films. Il y en a qui réalisent des disques. Puis c'est vraiment un job bien différente. Mm-hmm. Puis moi-même, je savais pas c'était quoi quand j'étais jeune. Puis je me rappelle que moi, j'ai grandi dans les années 80. Puis la mode, c'était les grands cheveux longs. Puis les gars se maquillaient, Motley Crue, Bon Jovi. Mm-hmm. Ils portaient des collants. Ouais. Puis moi, je tripais sur la musique. Je pratiquais de la guitare 10 heures par jour. Mais l'idée de maquiller puis de porter des collants, c'était pas tant que ça, mon bag.
Ouais.
Puis je me disais, ah, ça va peut-être être un mal nécessaire si je veux être musicien. Mais je regardais les pochettes d'albums à l'époque, puis je voyais toujours, tu sais, produced by.
Ouais.
Puis il y avait un nom, tu sais, réalisé par. Mm-hmm. Puis il y avait des noms de réalisateurs, mais je me rendais compte que le réalisateur, il co-écrivait les chansons avec l'artiste, il jouait plein d'instruments sur l'album, il faisait des arrangements. Puis je me rappelle, j'avais demandé à mon prof de guitare, Martin Larose, on le salue. C'est qui ça?
Est-ce qu'il donne encore des cours?
Je sais pas, je pense pas qu'il donne des cours, mais il y a un studio d'enregistrement au Saguenay, il est encore super actif. Là. C'est une des grandes influences positives dans ma vie de musicien, puis dans ma vie tout court. puis je me souviens de lui avoir demandé c'est quoi ce produced by? Mm-hmm. Lui m'avait dit ben souvent, ça, c'est le réalisateur. Lui, c'est un musicien qui a souvent un peu plus d'expérience, puis qui veut pas nécessairement faire des tournées, mais qui écrit des chansons. Fait qu'il est en studio avec le groupe, puis il aide les artistes à donner leur meilleur potentiel, mm-hmm. puis à écrire les meilleures chansons possibles, puis à donner la meilleure performance en studio. Puis moi, je me rappelle, ça a fait comme un light bulb, votre logo.
Ouais.
Dans ma tête, c'est comme « Wow, ça existe, pouvoir gagner sa vie avec la musique sans
se scraper
les cheveux, puis être maquillé, puis faire la guidoune sous stage avec des collants. » Tu sais.
Ouais.
Fait que depuis ce temps-là, moi, j'ai dit « Moi, je savais pas tant que ça faisait quoi, tu sais, mais je savais que c'était ça que je voulais faire. »
Puis tu savais que tu serais pas le gars, le frontman en avant qui lit la patente. Ça, tu savais déjà?
Je savais déjà. Okay. Puis tu sais, j'ai été dans des bands, j'ai été chanteur dans des bands pour le fun, puis pour apprendre le plus de choses possibles sur le métier. Puis tout ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse chanter, jouer de la guitare, jouer tous les instruments, écrire des chansons, être en studio. Tout m'intéresse. Fait que c'est important pour moi même de comprendre la réalité de l'artiste.
Ouais.
Si t'es juste un geek de studio puis t'as aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire rendre la chanson en spectacle, c'est difficile d'arriver puis d'aiguiller l'artiste à savoir comment faire la toune en studio. Alors que si t'as l'expérience du spectacle, t'as l'expérience de, ne serait-ce que vocalement, tu sais, quand tu choisis la tonalité dans laquelle l'artiste va chanter la toune, faut que tu penses à, c'est peut-être que ça sonne bien, super aigu, pendant que le chanteur s'égosille, mais quand il va faire 3 soirs par semaine pendant 2 ans et demi, il faut être capable de chanter soir après soir. Fait que c'est des décisions qui sont importantes.
Ça c'est toujours dans ton raisonnement, quand tu produis une chanson, de dire c'est quoi la faisabilité de cette chanson-là?
Ben, c'est un équilibre. Oui, c'est un équilibre. C'est sûr que y a d'autres outils. T'sais. Souvent, tu enregistres une chanson. Si une chanson va être vraiment plus efficace, chanter vraiment haut, t'sais, des fois, il faut que tu sentes la douleur dans la performance vocale, puis il faut la mettre à une certaine hauteur pour que le chanteur travaille fort pour la rendre. Ben, le compromis, ça peut être, bon, on va la baisser un petit peu en spectacle.
Ouais.
On va la faire un ton plus bas pour que ça soit un petit peu plus facile à faire, mais c'est toujours important de garder ça à l'esprit. Ouais.
Tu connais Max Martin, en fait, le réalisateur, tu sais.
C'est dans mon top 5 de...
C'est ça, j'imagine que c'est un de tes, t'es maître à,
absolument
maître à penser là. Mais puis ce gars-là il était chanteur dans des bandes de métal genre avant de faire de la réal tu sais. Puis il dit moi ça me sert full tu sais d'être chanteur parce que je travaille avec Katy Perry ou je travaille avec une telle ou un tel tu sais. Puis lui a réalisé les tunes pour toutes les plus grands hits ou tous les plus grands artistes et des tunes avec les autres tu sais. Mais il est capable de faire le plus de même puis de le faire, tu sais, de faire l'exemple, tu sais, tandis que
de le démontrer.
C'est ça, de le démontrer.
Moi, je comprends pas comment tu peux coécrire des chansons puis réaliser des chansons sans être capable de chanter pantoute.
Ouais, c'est ça.
Je comprends pas, mais il y en a qui le font. Fait que après, Rick Rubin, il réalise des disques puis il joue d'aucun instrument.
Ouais.
Fait que tu sais, la beauté de ça, c'est que c'est pour ça que c'est si difficile de définir ce métier-là, c'est que il y a mille et une façons de l'exercer, puis il y a personne qui le fait de la même façon. Tu sais, il y a des réalisateurs comme Rick Rubin, justement, qui a réalisé Slayer, les Dixie Chicks.
Kanye West,
il a réalisé...
C'est lui qui a fait... Non, c'est Butch...
Butch Vig,
ouais, Nirvana. Butch Vig qui a fait Nirvana, ouais.
Ça aussi, il est dans mon top 5. Ouais. Ouais. Mais tu sais, pour en revenir à Rick Rubin.
Ouais.
Il joue d'aucun instrument, il a jamais écrit une chanson de sa vie, il chante pas, mais il se définit lui-même comme un fan de musique professionnelle.
Ouais.
Sa seule habileté, c'est de savoir quand c'est bon.
C'est d'avoir du goût, tu sais.
Ouais. Fait que lui, il dit, on va engager tel ingénieur,
telle
band, tel batteur, on va aller dans tel studio, je vais vous faire écrire des tunes avec tel et tel auteur-compositeur. Il comprend l'artiste, il comprend la musique que l'artiste fait. Il y a comme une façon de distiller les influences de l'artiste, puis il y a une intuition à savoir où est-ce que l'artiste devrait aller à ce moment-là dans sa carrière, puis il est capable de mettre en place une équipe qui va écrire des tunes avec eux, qui va les enregistrer, qui va jouer sur le disque. Alors que d'autres réalisateurs, comme Max Martin, par exemple, ou comme John Mutt Lange, ou comme moi... Loin de moi l'idée de me mettre à leur niveau, mais au niveau de la façon dont on travaille, moi, j'ai été inspiré plutôt par cette génération-là qui s'enferme avec l'artiste dans un studio puis qui coécrit les chansons puis qui vont jouer plusieurs, sinon tous les instruments, puis qui vont s'occuper de l'enregistrement, qui vont être ingénieurs. T'sais, moi, c'est plus ma façon de faire, un peu par nécessité. T'sais, je me suis jamais dit « moi, je veux faire tout ». C'est juste que quand j'étais à Chicoutimi dans mon sous-sol, j'avais pas une scène pour engager un drummer puis engager un clavieriste, puis fallait que je m'organise avec mes troubles.
Puis là, on parle de quand, là? Chicoutimi
dans mon sous-sol, j'ai commencé en secondaire 3, 4.
Déjà là, t'enregistrais des affaires, là.
Ouais, j'écrivais des tunes. À partir du moment où mon prof de guitare, Martin Larose, il est sur Instagram, il est partout, si vous voulez, à commercial Martin Larose, qui m'a expliqué c'était quoi un réalisateur. C'est comme, moi, j'avais ma piste, là. J'avais ma trail, là. C'était comme... c'est ça que je vais faire. Fait que j'ai commencé à lire sur le sujet puis à poser toutes les questions possibles puis à trouver mes réalisateurs favoris. T'sais, je me rendais compte en regardant dans les pochettes d'albums...
qu'il y avait des noms qui revenaient.
Ouais, qu'il y avait des noms qui revenaient puis que même au Québec, là, il y avait des noms comme Tino Izzo qui est encore, à mon avis, le meilleur réalisateur québécois de l'histoire du Québec, en fait.
Qui a travaillé sur quoi?
Ben, il a fait, à l'époque, là, Rock Voisine, France d'amour, je veux dire, Céline Dion, il a tout fait, tu sais. Puis en plus, il est super fin, puis tu sais, je serais jamais meilleur que lui. Tu sais, dans ma tête, c'est comme mon gourou, là.
Ouais.
Mais tu sais, j'avais des noms qui revenaient, tu sais, autant des réalisateurs québécois qu'à l'international. Puis je les étudiais, puis j'écoutais les albums, puis je me rendais compte de leur rapport,
tu sais. T'es capable de reconnaître la signature.
Ben oui, tu sais. Ouais. T'écoutais Def Leppard, puis Shania Twain, puis t'entendais des « Hey! » avec genre 75 voix overdubbées, puis des gros drums. Pouf, pouf, bah! Puis c'était comme... comment ça se fait qu'il y a autant de points en commun entre Shania Twain et Def Leppard? Là, tu regardes dans la pochette, puis c'est le même gars qui a écrit Tune, c'est le même gars qui a réalisé l'album, tu sais. Fait que ça a été mon école.
C'est malade, ça.
Ouais.
Puis, toi, t'es de Chicoute.
Ouais.
Puis, est-ce que tu t'allais chercher ta gear ou Yvonique Desbiens?
Certain. Shout out à André de chez Yvonique Desbiens. Ben oui. Yvonique Desbiens, j'ai des musiques aussi à Jonquière.
Ouais.
Puis, à l'époque, il y avait un centre d'achat avec un petit magasin de musique qui s'appelait le comptoir musical Godreau. Fait que tous mes premiers instruments, c'est là que je les ai achetés. Puis, d'ailleurs, Martin Larose, hey, on va juste parler de lui tout le long du podcast, il était vendeur dans ce magasin-là.
Okay.
Fait que lui, là, tu sais, quand je dis qu'il a été d'une influence incroyable dans ma vie, c'est que même quand j'ai choisi mes premières guitares, mes premières pédales de distorsion, là, j'arrivais avec mes cassettes, puis je disais, je veux ce son-là, tu sais. Puis là, lui, il mettait ça dans le player, dans le magasin, puis il disait, ah ouais, ça te prendrait une distorsion avec beaucoup de gain, je vais t'en faire essayer une coupe. tu sais, vraiment là, à ce point-là. Fait que c'était les trois magasins de Chicoutimi, Jonquière. Fait que, ouais.
Puis qu'est-ce que t'écoutais? Qu'est-ce qui te faisait triper? Là, t'avais quel âge, mettons, quand t'as eu cette espèce de déclic-là, là, l'espèce de « c'est ça que je veux faire
» Je pense, je devais... C'est quoi? Quel âge t'as, genre secondaire? 4-5?
15-16.
15-16 ans, ouais. Fait que c'était dans ce bout-là. Moi, je pratiquais ma guitare 10 heures par jour. Là. Je me levais plus tôt le matin. Avant d'aller à l'école, je pratiquais 2 heures. J'allais à l'école. Je restais à côté de l'école, fait que je venais pratiquer genre 45 minutes sur l'heure du dîner.
Ah, oh, ouais.
Puis, ouais. Puis le soir, je faisais jamais aucun devoir. Je pratiquais jusqu'à 9-10 heures.
Qu'est-ce que tu pratiquais à ce moment-là? N'importe quoi, tout?
Ben, c'était vraiment du rock, là. Tu sais, là, on parle fin des années 80, là. Ouais. Je veux dire, il n'y avait pas une toune qui jouait à radio qui n'avait pas de solo de guitare.
Ouais, c'est ça.
T'écoutais l'affaire la plus pop, là, du Michael Jackson puis du Debbie Gibson, là. Puis il y avait même. Il y avait quelqu'un qui shreddait dans le milieu de l'époque. C'est comme si t'étais pas capable.
L'époque où est-ce qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui shred?
Tout le temps. Fait que, tu sais, dans. C'était ça le niveau, là. Le niveau minimum en tant que guitariste, si t'étais pas capable de faire des quadruples crush comme Van Halen, là, tu pouvais juste pas être engagé pour faire quoi que ce soit.
Ouais.
Fait que c'était ça, tu sais, Joe Satriani, Steve Vai, toutes les bandes, même dans des bandes comme Bon Jovi, là, qui étaient super bubblegum, les solos de guitare étaient comme waouh, tu sais. Fallait que tu pratiques vraiment comme un acharné jusqu'à ce que Nirvana arrive.
Exact, c'est ça que j'allais dire, exactement. Ouais.
Parce qu'il y a vraiment eu cet excès-là. Là. Tu sais, quand tu dis... Tu sais, c'est un peu ridicule quand c'est quasiment illégal de sortir une tune pop sans avoir du shredding. Ça veut dire que tu commences à avoir fait le tour de la question pas mal.
Puis maintenant, on écoute, tu sais, les tunes de ces années-là, puis c'est comme... Pourquoi je me fais rocker la gueule de même en plein milieu de la tune systématiquement?
Ben écoute, moi, tant qu'à moi, j'étais bien content. Tu sais. C'est sûr que moi, j'étais élevé à cette diète-là. Là, fait que j'aime encore ça, puis j'ai encore mes triples. Une fois par année, d'habitude à ma fête, je m'ouvre une bouteille de tequila, puis je m'installe avec ma guitare debout dans le salon, puis je shred toute la journée jusqu'à temps que la peau des doigts commence à arracher. Fait que c'est, si tu regardes mon Instagram, je pense qu'il y a 2 ans, j'ai fait pas des stories, mais des posts. Là. Il y a des posts, j'ai une strat rouge, là, puis je shred par-dessus des tunes de Satriani puis de Motley Crue, puis c'est comme « Yeah! » Fait que c'est ma journée de shredding annuelle.
Puis quand le contre-courant est arrivé avec Nirvana, t'as-tu fait « Yeah! » ou t'as fait « Arc, genre, ils savent pas jouer, c'est quoi ça? »
Ouais, moi, j'ai fait « Arc, ils savent pas jouer, c'est quoi cette marde-là?
Okay. »
Initialement, ça a été ma réaction.
Puis l'as-tu compris à un moment donné?
Ben oui, mais pas sur le coup, tu sais, parce que...
J'ai jamais compris.
Le gars, il est encore bitter, tu sais. Il est encore amer de ça. Ouais. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'étais... Faut que tu te ramènes en 1991, j'étais en secondaire 5, là. Ouais. Nirvana arrive, mais moi, ça fait depuis secondaire 2 que je pratique 10 heures par jour, parce que c'est obligatoire d'être capable de faire toutes ces prouesses-là sur la guitare.
T'es-tu en train de me dire que je peux fausser, puis
gratter 3 accords,
être quand même...
puis,
être connu,
puis devenir une rockstar?
Ouais, c'est ça.
Oui, tu sais. Fait que c'est drôle, parce que moi, j'ai comme un peu abandonné le rock à cette époque-là. Moi, j'écoutais juste du rock, ou pratiquement juste du rock, jusqu'à ce que la vague grunge arrive. Puis j'ai comme été frustré du rock, puis un peu, c'est sûr que t'es bitter quand tu viens de passer 7 ans de ta vie à pratiquer 10 heures par jour, puis que tout d'un coup, c'est plus cool, pantoute, d'avoir fait ça. Là, tu dis, j'ai pas investi à...
Ça fait mal.
Mais c'est drôle, parce que c'est là que j'ai ouvert mon esprit, pareil, que j'ai commencé à écouter d'autres styles de musique, puis j'ai commencé à triper ses harmonies vocales, puis commencé à écouter autre chose que la guitare dans les tunes. Commencer à écouter des affaires moins rock, puis me dire, attends un peu, les grooves de bass dans les vieilles tunes Motown, waouh, les tones aussi, tu sais, au niveau de la réalisation, on parle, tu sais, les années 80, il fallait que tout soit le plus gros possible, puis le reverb, puis la compression, puis l'EQ, tout était super bright, puis...
Ouais.
Puis là, comprendre un peu la subtilité puis les autres styles de musique. Puis c'est vraiment là, tu sais, quand j'ai commencé à me dégager du rock, que j'ai ouvert la porte à tellement d'autres styles de musique qui sont venus alimenter mon vocabulaire puis qui tout d'un coup faisaient que j'ouvrais mon esprit puis que j'étais plus polyvalent tout d'un coup. Tu sais, je me suis dit, OK, c'est cool. Là. Je l'ai dans les doigts, là, faire jouer un peu n'importe quoi parce au niveau technique, tu sais, je suis capable de jouer n'importe quoi, mais est-ce que je l'entends dans ma tête autre chose que le rock, tu sais?
Ouais.
Fait que c'est là que j'ai commencé à écouter des affaires, puis il y a des chums qui me faisaient... Je me rappelle la première fois que j'ai entendu le premier album de Garbage Il n'y avait pas de solo, mais il y avait des grosses guitares quand même. Mm-hmm. Mais il y avait toutes sortes de sons que j'avais jamais entendus. Il y avait, parce que bon, le Pro Tools, le logiciel Pro Tools était arrivé. Puis là, il y avait tellement de possibilités avec les ordinateurs de pouvoir manipuler le son.
Ouais.
D'une façon qui n'était pas possible avant ça. Puis moi, ça l'a vraiment... C'est là que j'ai commencé à m'acheter des synthés puis à faire plus de programmation de drums puis de synthés puis des arpégiateurs puis tous les sons qu'il n'y avait pas dans la musique que j'écoutais avant. Puis tu sais, c'était vraiment à partir de ce moment-là où je pense que j'ai fait la transition entre un guitariste qui veut éventuellement peut-être écrire des tunes puis faire autre chose
ouais.
à... plus un compositeur, puis un réalisateur, puis les arrangements, puis tu sais. C'est ouais. là que j'ai commencé à voir, comme on dit en anglais, « the big picture », là, plutôt que vraiment être concentré sur la guitare, puis sur mon instrument, vraiment élargir mes horizons. Puis,
okay.
Fait que c'est ça, ça a été finalement une bénédiction, tu sais, que le rock avec lequel j'ai grandi devienne désuet.
Devienne plus cool, du jour au lendemain.
Exactement.
Puis l'arrivée du numérique dans cette industrie-là, ça l'a marqué un énorme changement. Puis toi, tu l'as vu, tu l'as ouais. vécu. Peut-être que tu l'as écouté, le documentaire que Dave Grohl avait fait,
Sound City
ouais,
ben ouais.
où est-ce que Trent Reznor, le gars de Nine Inch Nails, il parle de l'arrivée du numérique, puis il dit qu'il y avait beaucoup de monde à l'époque qui chialait sur le numérique, puis encore aujourd'hui, tu sais, qui disent que tout le monde peut faire n'importe quoi maintenant. Puis lui, ce qu'il disait, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle technologie qu'il y a plus de gens qui ont quelque chose à dire.
Exactement.
Puis ça, justement, en tant que producer puis réalisateur, trouver quelqu'un qui a quelque chose à dire, ça doit être un challenge quand même.
Honnêtement, dans ma position... c'est plus une histoire de me faire offrir des projets puis de dire oui ou non.
Ouais.
J'ai jamais encore été dans la situation où c'est moi qu'il fallait qu'il
cherche.
Trouve un talent.
Ouais. Ouais,
ouais. Ouais. Puis je me dis tout le temps qu'à un moment donné, ça va venir puis à un moment donné, je vais vouloir faire ça.
Ouais, c'est ça. Est-ce que
je devrais probablement... Je devrais probablement le faire. Mais il y a un moment donné où il faut choisir ses batailles. Puis moi, je me concentre sur la musique. Puis j'ai eu beaucoup d'opportunités de sortir de ce rôle-là, mais je le sais pertinemment que à partir du moment où je décide de faire plus, je vais faire moins de musique.
Ouais.
Si je me mets à passer 4 heures par jour sur YouTube à chercher le prochain Justin Bieber, je vais faire 4 heures par jour de moins de musique.
Mm-hmm.
Puis ça, on est tous aux prises avec cette limitation de temps-là. Puis je le sais que je passe à côté des affaires des fois parce que j'en entends des artistes qui sont incroyables puis que je me dis comment ça se fait que j'ai pas, tu sais, j'ai pas eu cette espèce de
d'œil là pour
ouais, mais c'est pas que j'ai pas eu l'œil, c'est juste que j'ai pas pris le temps de m'exposer aux nouveaux talents. Puis je fais que ça finit souvent que regrettablement je fais de la musique, puis pendant que je suis en train de faire un disque, il y a plein de monde qui me font ouais. des demandes pour faire de la musique avec eux,
fait
ou des compagnies
projet,
de disques.
Puis
ou des...
un autre projet, puis un fait autre projet.
Ouais, par le temps que je finis un projet, j'ai déjà 4-5 projets qui ont été proposés, puis je finis par prendre celui qui est le plus intéressant. Puis jusqu'à date, j'en ai pas souffert parce que j'ai jamais fait de projet qui m'ont laissé un goût amer dans la bouche ou que j'ai regretté avoir fait. Par ouais. exemple. Puis je fais très peu d'albums. Tu sais, quand tu considères que j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant 20 ans, tu sais, j'ai fait très peu d'albums parce que aussi la façon dont moi je travaille, tu sais, il y a des réalisateurs qui quand leur travail commence, les chansons sont déjà écrites, ouais. puis tout est déjà fait. Fait que c'est une question d'aller en studio avec les artistes puis d'enregistrer l'album. Fait que, tu sais, Rick Rubin, il peut faire 4 albums en même temps, wow. 5 albums, 6 albums en même temps. Pendant le même été, il met des équipes en place dans différents studios, puis il se promène d'un studio à l'autre, puis il écoute, puis il dit « Ah, ça, c'est bon, mais vois-tu, moi, je pense que le dernier refrain devrait être double. » Puis il fait ses recommandations pendant une heure ou deux. Après ça, il sac son camp dans l'autre studio, puis il fait la même affaire. Moi, je co-écris toutes les chansons.
T'es dans le processus créatif depuis le début.
Dès le début, tu sais. Je veux dire, là, je viens de terminer un album de Ludovic Bourgeois.
Ouais.
Il est venu me trouver en Californie au mois de mars ou au mois d'avril. On a passé un mois ensemble, 7 jours sur 7, à écrire des chansons pour son nouvel album. Après ça, aussitôt que je suis revenu en ville, on a commencé à l'enregistrer, puis on a fait la... Lui, il avait une tournée cet été, puis je l'ai accompagné en tournée en tant que guitariste. Puis à tous les moments où on n'avait pas de show, on était en studio à travailler l'album, on a écrit une couple de tunes de plus. Mais je veux dire, j'écris, je joue le drum, la bass, les claviers, les guitares, puis je fais l'enregistrement, j'enregistre les voix, je fais l'editing, je fais le mixage. Fait que c'est une implication assez lourde quand même qui demande beaucoup de temps puis beaucoup d'énergie. Fait que je fais pas beaucoup de projets en quantité.
Ouais.
Puis je dis, tu sais, pour chaque fois que je dis oui, je dis non peut-être 25-30 fois, tu sais.
Aïe, aïe.
Puis j'ai essayé à un moment donné, j'ai engagé un assistant, puis je me suis dit, je vais pouvoir dire oui à plus de projets, puis ça n'a pas été vraiment concluant parce que je me rends compte que la façon dont j'ai bâti ma réputation, c'est que les gens viennent me voir parce qu'ils veulent, ils pensent pas parce que ça va être meilleur que s'ils vont voir quelqu'un d'autre, mais parce que ça va sonner de même, puis ça va être, ils vont voir cette vibe-là, puis cette espèce d'expérience studio-là avec moi, tu sais. Fait que quand je commence à déléguer, les artistes avec qui je travaille se sentent un peu délaissés.
Mmh. Ouais.
Tu sais, je pense à une anecdote avec Marc Dupré. À l'époque, je pense que je travaillais sur son quatrième ou son cinquième album. Puis j'avais engagé un assistant qui était vraiment bon, puis qui était en particulier, il était très bon avec les violons, les arrangements de violon. Okay. Puis j'avais fait un arrangement de violon, puis c'était magistral. Ça n'avait pas d'allure. Moi, j'avais la larme à l'œil, je capotais, puis j'étais un peu jaloux parce que je me disais, je ne serais jamais capable de faire un arrangement de violon de même, tu sais. Puis deux jours plus tard, Marc arrive, je fais entendre la toune, pensant qu'il va chier à terre. Puis il dit, mais ça, les violons sont gossants. Tu sais, puis c'est pas parce que les violons étaient pas bons, mais c'est parce que Marc, puis n'importe quel artiste qui m'engage, il m'engage parce qu'ils ont entendu ce que je fais, puis ce qui sort de moi, puis c'est ça qui leur plaît.
Ouais.
Puis s'ils entendent quelque chose d'autre, même si moi je trouve ça meilleur, ça veut pas dire que l'artiste va trouver ça meilleur parce que c'est pas ça qu'il a acheté.
Ouais, je comprends.
Fait que je suis frileux, tu sais.
Est-ce que tu sens que ça... Est-ce que ça assouvit ton désir créatif à 100%?
Parce que, tu veux dire travailler avec les artistes?
Ouais, parce que, mettons, parlant de... Tu dis que tu veux faire de la musique le plus possible.
Ouais.
Puis t'as l'air d'avoir un désir de... créer quelque chose avec l'artiste. Est-ce que tu sens que, mettons, justement, dans cet exemple-là, où est-ce que tu dis, hey, ça, comme c'est...
C'est vraiment malade, mais...
C'est vraiment malade. Puis que si la décision te revenait à toi, ça resterait ça, mais parce que l'artiste a une idée de qu'est-ce que tu fais, ça limite un petit peu tes possibilités?
D'un point de vue technique, oui, ça limite les possibilités, mais moi, je pense que les limitations sont... une limite, c'est l'affaire la plus importante pour le processus créatif.
Ouais.
Mm-hmm. Puis en musique, c'est encore plus vrai maintenant, alors dans ton iPhone, tu peux enregistrer un nombre illimité de pistes dans GarageBand, puis tu as tous les samples de drums. Tu peux faire un album dans ton iPhone. Dernièrement, je faisais la démonstration à un de mes amis, puis je disais, GarageBand dans le iPhone, ça coûte 4,99. C'est-tu gratuit?
Je pense qu'il vient avec l'iPhone.
En tout cas, c'est soit gratuit ou soit ça coûte 5$. Mm-hmm. Moi, j'ai un iPhone, un astidieux iPhone 6S de 5-6 ans. Puis il y a plus de puissance musicale là-dedans que mon studio au complet quand j'ai fait le premier album d'André Waters.
Ah ouais.
Qui a vendu 120 000 copies puis qui a eu je sais pas combien de numéro 1. Ça m'a mis sur la map.
Imagine entre le iPhone et quand les Beatles enregistraient, tu sais, dans les années 60.
C'est ridicule.
Avec un tape qu'il fallait qu'il coupe avec la lame de rasoir qui colle les tapes ensemble. Ouais.
Fait que, tu sais, je pense qu'on a trop d'outils, on a trop d'options, on a trop de plugins, on a trop de compresseurs, trop d'EQ, trop de sons de piano. 28 sons de piano, t'as-tu vraiment besoin de ça? Alors que dans le meilleur studio au monde, il y a peut-être un piano droit puis un piano à queue puis that's it, t'sais.
Ouais.
Fait que je pense que les limitations sont vraiment importantes. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi je fais pas d'album solo, t'sais. Tout le monde me pose tout le temps la question, t'sais. Surtout les compagnies de disques, parce que les compagnies de disques, ils entendent tout le temps mes maquettes.
Ouais.
Si je fais un album de Marimé ou un album de Marc Dupré ou un album de Ludovic Bourgeois, j'écris des tunes, c'est moi qui les chante sur la maquette.
T'sais. OK.
Fait que tu sais, les compagnies de disques... Des contrats.
On te signe direct.
J'ai dit non, moi, je ne saurais pas quoi faire.
On te signe direct.
Mais c'est ça la difficulté quand tu as plein d'outils, puis t'aimais au profit des autres, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, si t'es un petit gars qui a grandi en écoutant du punk, puis t'as tout le temps joué du punk, puis t'as tout le temps fait du punk, puis c'est juste ça qui sort de toi, du punk, tu vas faire du punk, tu sais.
Ouais.
Sauf qu'à un moment donné, quand t'apprends à faire tous les styles, à jouer tous les instruments, tu fais quoi? Pis tout ça, c'est comme, je peux tout faire. Je fais, c'est quoi moi? Tu sais, qu'est-ce que je fais là-dedans? Ouais. C'est très difficile.
Mais ouais. Moi, c'est une question de personnalité aussi. T'sais. Moi, j'ai pas l'ego, j'ai pas le besoin de validation du public, puis j'ai pas l'ego, que j'ai pas besoin qu'on me regarde, puis qu'on me voit, puis qu'on m'écrive 1000 fois par jour à quel point je suis beau, tu sais. Même si je suis vraiment, vraiment...
Magnifique!
Écrivez un commentaire comment Fred est beau.
Comparé à ces deux-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une question de personnalité. Moi, je suis à mon meilleur quand j'aide quelqu'un d'autre à s'exprimer. C'est niaiseux, mais j'ai... À un moment donné, je marchais... je me rappelle pas j'étais où. Je pense que j'étais à Key West, en Floride. Puis il y avait un vieux monsieur, genre aveugle, indien. Puis... Il était debout, puis il y avait comme une table, puis je savais pas ce qu'il faisait là. Il était sur la rue principale, puis là, je commence à lire. Il y avait des découpures de journaux sur un board. Puis finalement, c'est un genre de médium hindou reconnu internationalement, puis qui avait, genre, Barack Obama le consultait, genre, une fois par mois sur des décisions de vie. Puis tu sais, quelqu'un, il y avait des photos de lui, puis tous les leaders mondiaux. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ici, ce sacrifice, tu sais? Ouais. Puis là, moi, j'étais juste en train de lire, puis là, il se met à me parler, puis il me dit... Vous, mon jeune homme, tu sais. Mais il avait les yeux fermés. Déjà là, juste savoir que j'étais un jeune homme, il m'a impressionné, tu sais. Il dit, vous êtes une trampoline. Trampoline? Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais,
il est fou.
J'ai dit, ah ouais, je suis une trampoline. Il dit, oui. Il dit, vous êtes venu ici pour aider les autres à sauter plus haut. Hein? Fait que là, je dis, OK. Puis là, je pense à mon métier, puis je trouve ça quand même drôle, tu sais.
Ouais.
Que tout ce que je fais dans la vie, c'est aider les autres à faire des disques.
C'est fou.
Puis là, je dis, OK, mais moi, si je veux sauter plus haut, si je t'écœurerais d'aider les autres à sauter plus haut, puis moi, je veux sauter plus haut, il dit, vous, dans une autre vie, vous avez sauté très haut. C'est pas votre tour. Votre tour est passé. Maintenant, vous aidez les autres. Fait que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est si spirituel que ça, mais c'était quand même une belle image. Puis même si ça sortait de nulle part, puis c'était juste une coïncidence... Ça illustrait bien ma personnalité. Moi, je veux pas avoir le spotlight. T'sais.
Mais si tu te poses la question, c'est pas parce qu'il y a un petit quelque chose qui voudrait sauter plus haut ou non?
C'est juste... Non, c'était juste pour le mettre au défi, voir qu'est-ce qu'il allait me dire. Mais non, vraiment, là, je me sens bien. Là, je viens de finir un album, puis je m'en vais en Californie, puis je vais passer l'hiver sur le bord de l'eau, puis je vais être bien. Je veux pas avoir la pression.
Ça sonne bien quand même.
Ça sonne bien.
Puis là, en Californie, fait que là, t'es loin du studio, puis ça. Tu continues de pouvoir travailler quand même. Tu amènes ton laptop, une couple d'instruments, exactement. Ça continue.
Ça continue. C'est surtout que je fais beaucoup de mix puis de mastering.
OK.
Fait que je veux pas dire non à ces contrats-là parce que c'est comme le seul travail que j'ai, que je peux faire à distance. Mm-hmm. Puis si un jour, je décide de me relocaliser de façon permanente ailleurs qu'au Québec, je vais pouvoir continuer à faire ça sans être présent physiquement. T'sais. Alors que quand tu écris des chansons et tu réalises des disques, il faut que tu sois là, disponible physiquement pour travailler avec l'artiste.
Ouais.
Fait que je continue à dire oui à des contrats de mix puis de mastering, puis des fois de la musique de télé, du scoring, et ainsi de suite. Mais sinon, je travaille là, une couple de jours par semaine maximum.
Ah ouais? L'hiver,
ouais.
OK. Puis, tu sais, maintenant, avec toute l'approche justement du numérique, mais de plus en plus de réalisateurs où maintenant, on appelle souvent ça des beatmakers, tu sais, tout est in the box, là, tout est dans ton laptop, that's it, t'as les sons là-dedans, t'as tous tes drums là-dedans, tu fais ta tune de A à Z pratiquement juste avec un laptop, tu sais.
Ouais.
Puis t'as l'approche plus old school de non, il faut aller en studio, ça prend des préamps à lampe, ça prend du vieux gear vintage, ça prend les amplis, ça prend... Puis les deux approches se défendent, toi, tu te situes où là-dedans? Parce que j'ai l'impression que t'es un peu un genre d'hybride, là.
Ben, je suis un hybride, mais je penche plutôt du côté si ça sonne bien, c'est bon. Okay. Le processus en tant que tel, il m'intéresse pas vraiment.
TP sur tape pour le trip de TP sur
tape? Non. C'est sûr que non. Puis, tu sais, j'ai fait des tests AB à l'aveugle, là, puis le tape là, versus les simulations. Ouais. Je veux dire, écoute, là, si moi puis mes trois amis geeks avec le plus d'oreilles que j'ai rencontrés dans ma vie, sont pas capables
avec le meilleur système de son.
Ouais. Sont pas capables d'entendre la différence. Imagine le public. T'sais. Moi, je veux pas botcher parce que je me dis que le public n'entend pas la différence, ouais. mais je viens quand même du côté musical et non pas du côté engineering. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en studio qui trippent sur l'équipement, puis qui trippent sur les micros, puis qui trippent sur les vieilles machines. Moi, je trippe sur la musique. Mm-hmm. Fait que les outils qui me permettent de transmettre ma vision musicale, puis ce que j'entends dans ma tête de la façon la moins obstrusive, puis la plus pratique, puis la plus facile, puis la c'est ça que je vais utiliser, tu sais. Ouais. Je me rappelle, parce que moi, j'ai vécu toute la transition. Quand j'ai commencé à faire de la musique, ça n'existait pas un simulateur d'ampli de guitare, puis ça n'existait pas un faux son de piano qui sonne vraiment comme un vrai son de piano, puis ainsi de suite, tu sais. Puis, fait que j'avais vraiment un multipiste à bobine, puis les consoles, puis... Mais à mesure que les outils sont devenus disponibles dans l'ordinateur, je les testais. Puis quand j'ai découvert un compresseur qui sonnait aussi bien, sinon mieux que le compresseur que j'utilisais externe, j'ai switché. Puis de nos jours, vraiment, tu sais, j'ai aucun problème avec les gens qui trippent sur les vieux studios puis le vieil équipement, parce que c'est un trip comme un autre, là, tu sais. Ouais. Mais moi, ça m'importe peu. Pour vrai, c'est si je suis capable de faire le son... Si je suis capable d'enregistrer un album au complet dans mon téléphone, je vais le faire, là. C'est la toune. Une bonne toune enregistrée tout croche dans un téléphone, c'est bien plus fun à écouter qu'une toune de marde enregistrée dans un studio à 4 millions avec de l'équipe, avec le même équipement qui a servi à enregistrer les Beatles. On s'en fout, là. Le succès des Beatles, il vient pas du vieil équipement. Non. À l'époque, les Beatles, s'ils avaient eu accès à tous les outils qu'on a accès en ce moment, ils les auraient utilisés. Ils étaient tellement visionnaires. Ouais. Eux, à toutes les fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, ils l'incluaient dans leur workflow. Fait que je pense vraiment pas que les gens qui disent « Ah, moi, j'utilise ça parce que les Beatles utilisaient ça » ont un argument valide.
Non, c'est ça.
C'est vraiment intéressant, ça.
Jimi Hendrix, là, à toutes les fois qu'il y avait une nouvelle pédale qui sortait, là, il en existait quatre là, quand il est mort, là, des pédales. Là, une pédale de fuzz, puis une pédale de wah-wah, puis une pédale... À toutes les fois qu'il y avait quelque chose de nouveau, il allait au Guitar Center à Hollywood, puis il l'achetait, puis il l'incluait dans son nouvel album. S'il existait aujourd'hui, là, il serait le premier à avoir une guitare cybernétique branchée dans 8 amplis digitaux qui font des sons qu'on n'a jamais entendus de notre vie. Ouais. Alors qu'il y a des fans de Jimi Hendrix qui s'astinent sur quelle pédale de fuzz de 1969 il faut que j'achète, puis quelle marque de batterie il faut que je mette dedans pour sonner exactement comme Jimi Hendrix. Ouais. Le dernier qui sonnerait comme Jimi Hendrix en 2019, c'est
Jimi Hendrix. C'est ça qui est drôle.
C'est malade.
Ça me fait penser à deux. Souvent, mettons, moi, je fais la musique aussi dans la vie. Puis à l'université, mettons, tu étudies en jazz, puis c'est comme Charlie Parker. Puis là, c'est comme, OK, dans le temps, dans les années 40, tu as travaillé quelque chose de nouveau, puis l'une d'autres, faut imiter ça à la perfection, mais ces gars-là, c'était des rebelles, là. C'était OK, la musique pop, le swing, là, ce que vous faites là, avec vos grands orchestres, là, fuck that. Nous, on va dans des petits clubs, puis genre, on joue le plus de notes possible, puis genre...
C'était pas des traditionnalistes?
Vraiment pas.
Et aujourd'hui, c'est des traditionnalistes qui essaient de les imiter en pensant les honorer, exactement. Alors qu'ils ne les honorent aucunement, au contraire.
C'est ça, puis c'est pour ça que, mettons, moi, un band comme Radiohead, je me dis, c'est exactement... C'est comme les Beatles des années 2000, tu sais. Parce qu'ils ont des bonnes tunes, puis ils utilisent les outils modernes qui sont à leur disposition pour créer des nouveaux sons qu'on n'a jamais entendus avant.
Voilà.
Puis c'est exactement la même démarche, finalement. Là,
absolument, je suis tellement d'accord. Fait que moi, je me situe vraiment là, tu sais. Donne-moi un téléphone, un micro qui se branche direct là, puis une guitare, puis je suis correct, là.
Ouais.
On va s'organiser.
Puis toi, t'as une approche de simplicité volontaire, je pense, en général,
dans ma vie,
dans ta vie.
Ouais.
Puis inévitablement, c'est sûr que ça se transmet dans la musique aussi, tu sais. Puis je t'écoutais à un segment avec Mick Swinn, là, à son émission.
Oui.
Puis il te demande, tu te dis, ouais, tu sais, à une certaine époque, j'ai déjà échappé au niveau gear. Puis j'avais 60 guitares. Puis là, j'ai réduit à 15 guitares.
Ouais, j'ai réduit, ouais.
Les 15 guitares, ça, c'est le plus simplicité possible.
Mais c'est assez simple, pareil, tu penses à ça, parce que, tu sais, ça comprend les basses et les guitares acoustiques. Fait que déjà là, tu sais. Puis aussi, faut compter que des fois, je suis en tournée.
Ouais.
Fait que j'ai un certain nombre d'instruments qui va suivre la tournée dans le troc, là, comme on appelle, puis dans les entrepôts, tu sais, avec lesquels je peux pas toujours revenir après chaque show. Puis entre les shows, tu sais, une tournée au Québec, là, c'est pas comme aux États-Unis, là. Ma blonde, elle part en tournée, elle part de chez eux pendant 4 mois sans revenir seule fois. Tu sais, on part en tournée, on va faire 2 shows, puis on revient, tu sais.
Ah, ouais. On va en couille une fois, puis on
c'est ça. Fait que moi, même quand je suis en tournée, je suis en studio. Fait que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, je suis en studio, puis après ça, je m'en vais la fin de semaine faire une couple de show. Fait que souvent, il y a des instruments. Tu sais, si tu utilises une Strat, une Telecaster, puis une Les Paul, puis deux guitares acoustiques, bien là, il y en a déjà cinq qui sont sur la tournée. Puis si tu as besoin d'une Strat puis une Les Paul en studio, tu as besoin d'en avoir une deuxième, sans compter les backups. T'sais. Fait que si tu as besoin de ça en show, cinq guitares en show, tu as besoin d'un rechange pour chaque. Tu as déjà 5, 6, 7 guitares qui sont plus dans ton studio. Mm-hmm. Fait que tu as besoin de des doublons, là.
Ouais.
Mais si je faisais... Tu stock, man.
Non, mais en même temps, c'est parce que, oui, j'ai réduit, mais c'est vrai que j'allais échapper. 60 guitares, ça n'avait pas de bon sens. Quand je me suis séparé, j'ai vidé le garage, là, j'ai trouvé des guitares que je ne me rappelais même pas d'avoir
achetées.
Fait que ça, c'était moins glorieux, là, mais...
Il y avait le David... Martin Lee Gore, pardon, c'est le guitariste de Depeche Mode. Lui, quand il, c'est lui qui compose les tunes. Là. Puis quand, ils sont en processus de composition, dans le fond, lui, il écrit une maquette tranquillement, quelqu'un de maquette, il la présente aux autres gars, puis là, ils font un album. Puis lui, dans le fond, il part d'un instrument. Fait que genre, il se promène, il voit un instrument qu'il aime, une guitare, mettons, en forme d'étoile, puis il fait genre, ouais, ça sonne donc bien. Puis là, il part sa maquette à partir de ça. Je serais curieux de voir, mettons, le garage de ce genre de personnes-là. Tu dis que toi, t'en avais 60, là, il doit en avoir en sacrement.
Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, tout le monde a son processus. Mais c'est vrai qu'un nouvel instrument peut t'inspirer des nouvelles idées.
Ouais.
Fait que j'ai quand même une rotation. Il y a des instruments que avec lesquels j'ai vraiment beaucoup joué, j'ai enregistré beaucoup de chansons avec, puis t'as envie de continuer à évoluer puis avoir un son qui change un peu avec les années, évidemment. Mm-hmm. Fait que ça m'arrive de dire, bon, ben celle-là, tu sais, je l'ai squeezée autant que je pouvais la squeezer.
Elle a fait son bon service.
Mm-hmm. Ouais, tu sais.
Est-ce que t'es retiré comme les joueurs de hockey qui lèvent les numéros de gilet au plafond?
Non, faut que ça continue à servir, tu sais. Puis c'est, tu sais, à partir du moment où quelque chose, peut-être un instrument est épuisé à mes yeux, ben il peut être super inspirant pour quelqu'un.
Mais oui.
Qui a jamais joué dessus, fait que je mets ça sur Kijiji, puis comme passe au suivant. T'sais. Des fois, j'en ai donné en masse. Là. Sur les 60, j'en ai donné à des petits cousins qui commençaient à jouer, ou des petits cousins qui étaient vraiment rendus bons, puis qui méritaient une meilleure guitare que la guitare de marde qu'il y avait. Mm-hmm. Fait que je dis, tiens, c'est ton jour de chance, tu vas avoir une Strat.
J'ai fini avec. Ouais, c'est ça. Elle a une deuxième vie.
Fait que j'ai essayé de donner au suivant un peu aussi, là, tu sais. Là-dessus, j'en ai donné une coupe à des enchères de charité, puis ainsi de suite.
T'as-tu une préférée qui s'en ira jamais?
Je pense que non. Okay. Non, j'aime pas l'idée de dépendre d'un outil irremplaçable.
Ouais. Mm-hmm.
J'aime ça savoir que si je suis en Allemagne sur une session, je peux aller louer une Strat puis faire ma job avec, t'sais, peu importe, t'sais. Une Strat, une Fender Stratocaster, c'est une guitare électrique super connue. C'est pas tous des musiciens qui écoutent ça. Là, on est rendu vraiment profond dans le geek.
Ouais.
Mais c'est ça. Moi, puis je pense que c'est mon côté minimaliste. J'aime pas ça, me dire, hey, cette guitare-là, je l'ai utilisée sur tous les albums que j'ai fait dans ma vie, puis je pourrais pas m'en passer. Je peux m'en passer. J'aime ça savoir que je peux partir 6 mois en Californie, puis si mon triplex passe au feu, ma vie continue, tu sais. Ouais. Je vais pas pleurer un instrument ou même un objet, tu sais. Fait que mes photos importantes sont sur le nuage.
C'est ça.
Puis sinon, si tout le monde que j'aime sont en vie, sans coller du reste. Là.
Puis ton côté minimaliste, dans les autres sphères de ta vie, ça se manifeste comment? Je sais que t'as pas d'auto,
Ben, ça se manifeste... C'est une bonne question parce que c'est rendu tellement naturel.
Ouais.
Puis j'essaie de pas faire la morale à personne. Puis j'essaie de pas... influencer personne de façon explicite. Mm-hmm. Si les gens qui m'entourent trouvent que ma façon de vivre a de l'allure puis ils veulent émuler certaines de mes habitudes, c'est cool, mais sinon, je ne veux pas faire sentir quelqu'un coupable parce qu'il s'achète une 7e paire de chaussures si moi, je trouve que 3, c'est assez.
Ouais.
Fait que j'y pense pas vraiment tant que ça à mon minimalisme, mais c'est sûr que les gens m'en parlent. Je pense que c'est pas mal un peu dans... De toutes les façons. C'est autant la quantité d'ingrédients que je garde chez nous pour cuisiner que la quantité de chaussures que j'ai, les instruments de musique.
Fait que ça s'est fait plutôt naturellement malgré toi, plutôt qu'un choix conscient de dire « OK, là, je vis une vie de simplicité, mettons. »
Je te dis, ben tu sais, je viens d'une famille vraiment pauvre.
Okay.
Fait que, tu sais, déjà là, tu sais, je me suis rendu compte rapidement que avoir plus de stock, ça...
Ça change rien.
Parce que je viens de famille pauvre, mais que tout le monde s'aime, puis tout le monde... Tu sais, vraiment, j'ai eu beaucoup de support de mes parents, puis... Mm-hmm. Fait que je viens d'une famille pauvre, mais unie.
Il y avait
et
du bonheur
aimante.
Dans ta maison.
Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas grandi en associant confort et richesse avec bonheur. T'sais, fait que ça, c'est, je m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais je me rends compte aujourd'hui que ça a beaucoup influencé. Mais après ça, quand j'étais arrivé à Montréal, puis j'ai commencé à travailler, puis avoir un peu plus les moyens, tu sais, quand je dis je l'ai échappé avec les guitares, là, ça, c'était, on était loin du minimalisme. Ouais. Tu sais, je me rappelle, tu sais, quand. Je voyais un vieux vidéoclip de Bon Jovi, puis je voyais Richie Sambora avec une Kramer. Je me disais, hein, je voulais une Kramer quand j'étais jeune. Là, j'allais sur eBay, puis j'achetais une Kramer alors qu'on s'en calisse d'avoir une Kramer. fait que, tu sais, je l'ai échappé un peu sur les guitares, sur les instruments de musique. Puis, tu sais, bon, on avait une maison sur la Rive-Sud qui était trop grande pour nos besoins, puis qui coûtait trop cher à entretenir par conséquent, tu sais. Puis le terrain, puis le, la souffleuse, tu sais, toute la patente que t'as vraiment pas besoin, mais que tu. Pour une raison ou pour une autre.
Parce que
tu
as l'argent de le faire, tu décides
ouais.
de le faire.
Tu sais. Puis en 2015, je suis parti avec mon ex, puis on a fait le tour des États-Unis dans une roulotte Airstream de 16 pieds.
Ah ouais.
Puis là, c'était clair que là, on peut pas amener grand-chose. Fait que j'ai amené une guitare, puis mon T-shirt préféré, mes deux T-shirts préférés, trois paires de bas, puis deux paires de bobettes, puis tu sais, parce que le storage était assez limité là-dedans, le rangement.
Puis c'est pas toi qui a le plus...
c'est pas moi qui prends le plus de place pour l'instant.
Faut que tu laisses le deux tiers, là.
Ah oui.
Pour ta blonde. Fait qu'on a fait ça, fait qu'on a réduit par nécessité juste pour le voyage, tu sais. Mais c'est quand je suis revenu dans ma maison de 2000 pieds carrés avec que je me suis rendu compte à quel point ça avait pas de bon sens, tu sais. Qu'on vient de passer 6 mois super heureux. Je veux dire, on avait tout ce dont on avait besoin, tu sais. Puis là, tout d'un coup, tu sais, je me suis rendu compte qu'on avait 3 TV dans une maison pour 2 personnes. Ouais. Tu te dis, sacrement, pour vrai, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Ouais. Puis je me suis mis à lire sur le minimalisme, puis sur la simplicité, puis sur l'indépendance financière. Puis tu sais, je me suis rendu compte que je sous-estimais tout ce que ça coûtait de maintenir quelque chose, sans même acheter quoi que ce soit de neuf, là, nos possessions continuent à coûter de l'argent après qu'on les ait achetées. Parce que ce soit en frais d'assurance. Tu sais, je veux dire, si t'as 60 guitares, il faut que tu les assures. Là. Faut que tu continues à payer pour posséder ces guitares-là.
Les autos.
Faut que tu les assures, mais il faut que tu aies une place pour les mettre. Fait que là, on avait une plus grosse maison juste pour accommoder nos biens inutiles.
Ouais.
Fait que là,
tu payes l'hypothèque encore plus.
L'hypothèque. Fait que là, tu payes une hypothèque pour une plus grosse maison, puis tu payes de l'entretien pour une plus grosse maison, puis tu payes de l'assurance pour une plus grosse maison, puis des taxes municipales, puis des taxes scolaires. Fait que les 60 guitares, ils sont reflétés dans les coûts continus de toutes ces affaires-là, là, l'hypothèque, puis les assurances, puis les taxes municipales, puis les taxes scolaires, puis on se rend pas compte de ça.
Ouais.
Fait que c'est quand je me suis rendu compte de ça après avoir passé 6 mois dans 86 pieds carrés, puis là, tout d'un coup, je retombais dans 2000, je me disais, ça n'a pas de sti de bon sens.
Mm-hmm.
Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment faire des changements dans ma vie importants.
C'est que tu es plus flexible, là, tu peux plus décider du jour au lendemain, hey, finalement, la job que je fais, je trippe pas. Mais là, tu décides, ou je t'en burn out, il faut que je prenne un break. Mais là, les dépenses continuent. T'sais. Tandis que quand tu diminues ça, t'es flexible de te revirer sur une scène et dire « OK, j'ai envie de faire ça, go.
Ouais.
Je peux le faire. »
Ben, ça se traduit notamment dans la capacité d'accepter des contrats moins payants,
mais
que t'as vraiment envie de faire.
Ouais.
Puis ce que j'ai découvert, c'est que les contrats moins payants que t'as vraiment envie de faire, t'es fait mieux. Puis finalement, t'sais, dans l'esprit d'un album, finalement, il est meilleur.
Ouais.
Puis il vend plus, puis il joue plus à radio, puis il finit par être autant, sinon plus payant que le contrat qui était plus payant à la base que tu n'avais pas envie de faire, que tu aurais fait, je veux pas dire à botch, parce que quand tu es professionnel, tu fais comme du monde, là, mais tu peux pas faker la passion. Là,
non.
T'sais? Fait que je pense que même en prenant des contrats moins payants puis en faisant des choix qui sont pas basés sur le revenu, ça finit par avoir des répercussions positives sur tes finances. Ça, c'était comme une espèce de symptôme, pas un symptôme, mais un effet secondaire.
Un dommage collatéral.
Ben, un effet secondaire que j'avais pas en tout anticipé. T'sais. Qu'en travaillant moins, sur des affaires que j'ai plus envie de faire, ça allait finir par être encore plus payant qu'avant. Mmh. Puis je pensais pas en tout que ça allait faire
ça. Tu le faisais avec même pas ça en tête.
Ouais. Fait que c'est ça. Win-win.
C'est fou. Moi, ça m'intéresse tellement. Tout ce qui est minimaliste, moi, je me suis toujours tenu loin de la surconsommation. Là. J'ai toujours eu, mettons, j'ai un attachement au matériel, mais du matériel de qualité. Fait que, mettons, je vais m'acheter une fois une affaire, ça va me coûter cher, mais elle va toffer pendant longtemps. Là,
ben, c'est ça.
Puis ça, moi, justement, tu sais, j'avais. Quand mes parents se sont séparés, moi, j'ai vidé la maison familiale. Puis c'était un cauchemar. Le nombre d'affaires accumulées qui n'ont jamais servi ou qui ont servi une fois, ou tu sais. Puis tout ça, par ça, tu te dis, tu sais, ça, c'est juste d'accumuler du vide, du rien, prendre la place, consommer, tu sais. Puis dans tout ça, il y a l'espèce de. Il y a la décroissance qu'on parle de plus en plus, de dire que, exactement ce que tu viens de dire on va travailler moins, mais de façon plus qualitative. Puis là, des fois, ça va se refléter, comme tu l'expliques, en quelque chose qui va être plus passionnant, surtout dans le domaine des arts.
De mais quoi, même quoi, si c'est pas le cas.
Même si c'est pas le cas, c'est ça le point.
Ça apporte plein de bénéfices.
Ouais, exact.
Quand même.
Exact. On produit ici un podcast de Gabriel Nadeau-Dubois, puis le dernier podcast qu'il a fait, c'était sur « Et si on travaillait moins? » Puis dernièrement, ils prenaient l'exemple de Microsoft qui avait laissé leurs employés travailler 4 jours par semaine à place de 5.
OK.
Puis apparemment que ça avait eu des répercussions vraiment positives sur tout le rendement de tous les employés.
Ça ne me surprend pas. En Colombie-Britannique, mon frère habite sur une île en Colombie-Britannique qui s'appelle Salt Spring.
Ouais.
Puis les kids, ils vont à l'école 4 jours par semaine.
Ah ouais.
Puis, je veux dire, après ça, là, ils sont aussi qualifiés, sinon plus, pour aller à l'université. Là.
Ben oui.
Et je veux dire, une journée complète de moins par semaine, là, c'est 20 % de moins de scolarité pour un résultat égal ou supérieur.
Ce 20 %-là de ton temps, tu peux le mettre dans 1 million d'affaires.
Exactement. Puis mes neveux, ils sont incroyables. J'ai un neveu qui est quasiment virtuose de l'harmonica, juste parce qu'il a le temps de développer autre chose. Puis j'ai un autre neveu qui trippe sur la robotique. Puis ce qui est cool, c'est qu'à cette école-là, la journée où il n'y a pas d'école, l'école est quand même ouverte. Puis il y a plein de cours parascolaires qui sont offerts. Fait que si ça tente de venir à l'école le 5e jour puis faire de la robotique, faire de la soudure, faire de la peinture, faire n'importe quoi d'autre, tu peux. Fait que les jeunes se trouvent une passion puis ils la développent dans cette 5e journée-là, puis c'est niaiseux, mais ça les outille pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, tu sais. Ils peuvent essayer plein d'affaires, tu sais, d'une année à l'autre, puis finalement, tomber sur une passion qui insoupçonnée, tu sais.
Ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Ouais. Puis, je change de sujet complètement, mais tu sais, on parlait de revenus, tu sais, puis toi, je sais que tu as eu une période, au début, comme sous beaucoup de musiciens, plus difficile.
Ouais.
Puis qu'aujourd'hui, tu sais, s'il y en a un en tout cas, ça va bien pour toi, mettons, à ce niveau-là, là, tu sais, je pense, là. Le fait que tu as trouvé aussi. Ma question, est-ce que. Et je pars par lui méchamment. Est-ce que ça, c'est venu tout seul, entre guillemets, le fait que toi, tu étais passionné de mettre ton temps, ton énergie là-dedans, puis ton talent, puis l'argent est venu. Comme par défaut, ou il fallait que tu te demandes, OK, comment je peux faire pour que vivre de mon art, puis c'est quoi les moyens qu'il faut que je prenne pour y arriver?
Je peux pas vraiment prendre beaucoup de crédit pour avoir planifié, tu sais,
okay.
Quoi que ce soit de positif dans mes finances, parce que, tu sais, non mais...
Dis comme ça.
Non mais c'est vrai. Okay. Maintenant, je peux prendre du crédit parce que j'ai fait mes devoirs dans les quelques dernières années pour pouvoir optimiser l'argent que finalement j'ai fait dans le passé.
Okay.
Mais honnêtement, le côté économie puis pas dépenser trop, ça provient vraiment juste du fait que j'ai grandi sans dépenser.
Ouais, ouais.
C'était ça mon mode d'opération, tu sais. Puis... je pense pas que j'ai fait plus d'argent que les autres réalisateurs québécois qui ont fait des hits, tu sais.
Okay.
Je pense que la différence est que j'ai moins dépensé que la plupart qui sont partis en peur dans les instruments, puis dans le gear, puis dans le gros studio, puis tu le quittes. Puis que j'ai travaillé tellement, tu sais, que j'ai eu une grosse période de 10-15 ans où j'aurais même pas eu le temps, même si j'avais voulu dépenser, j'aurais pas eu le temps parce que j'étais 6 jours sur 7 en studio, tu sais. Fait que quand je me suis séparé en 2016,
ouais,
je me suis retrouvé avec zéro envie de faire de musique forever.
Ben, ah ouais.
Finalement, ça a changé avec le temps. Mais je parle, mon état d'esprit quand je me suis séparé, c'était comme...
Fuck that.
Fuck it. J'en ai assez fait. J'ai eu une bonne run.
Ouais.
Merci, bonsoir. Je déménage dans l'Ouest, dans une roulotte, dans le désert. C'était vraiment ça.
Ah ouais.
Puis je l'ai fait.
C'était fini.
Sauf que là, rendu dans le désert, moi, tu sais, après... depuis que j'étais en secondaire 2, que je pratique ma guitare 10 heures par jour, puis que quand j'ai arrêté de pratiquer ma guitare 10 heures par jour, c'est parce que j'ai commencé à écrire des tunes 10 heures par jour.
Ouais.
Puis... là, fait que ça a commencé à 13 ans, 14 ans, puis là, j'étais rendu à 42, puis tout d'un coup, tu dis, je suis dans le désert, puis ma vie, je suis retraité.
Tout ce que j'ai fait a terminé maintenant.
Ouais. Fait, mais là, je veux dire, c'est comme, ça n'avait pas d'allure. Fait que là, je me tournais les pouces, puis je me suis dit, j'avais sur ma bucket list quelques items,
ouais,
que je voulais faire le premier hiver, tu sais, après ma séparation, quand j'étais rendu dans l'Ouest. Puis une de ces affaires-là, c'était apprendre comment optimiser mes investissements. Parce que je savais que j'avais mis beaucoup d'argent de côté après 15-20 ans de travailler vraiment, vraiment fort puis de faire de la belle argent. Ouais. Tu sais, quand même, j'ai fait plein d'émissions de télé puis ça donne quand même beaucoup de droits d'auteur puis ainsi de suite. Mais je savais pas trop comment ça marchait l'investissement. Fait que j'avais des REER investis par la madame de la banque là, à low risk là, qui faisait pas grand-chose.
Ouais,
puis toute la patente, tu sais. Fait que j'ai acheté une pile de livres, là, mais c'était ridicule. Là. J'avais plus de livres dans ma roulotte que quoi que ce soit d'autre. Là. Puis j'ai passé des semaines et des semaines et des semaines à lire ça. Fait que après ça, tu sais, à partir du moment où j'ai appris à optimiser mes investissements pour qu'ils puissent me faire vivre, tu sais, pour le futur, je me suis mis à souffler un peu plus. Puis, tu sais, fait que ça, oui, tu sais, dans les dernières années, j'ai vraiment appris comment ça fonctionnait. Mais sinon, tu sais, je peux pas vraiment dire, ah, j'étais vraiment intelligent avec mon argent. Puis,
okay,
c'est juste que par insécurité puis par manque de temps, je l'ai dépensé. Je l'ai pas dépensé.
Mm-hmm. Ouais.
Alors, puis, tu sais, que je passais mon temps à travailler puis à créer des nouvelles chansons puis des nouvelles musiques de télé, tu sais, qui continuaient à faire que l'argent allait rentrer, tu sais.
Ouais. Mais juste l'idée de faire, d'écrire des chansons puis de faire de la musique de télé, moi, mettons, depuis 7-8 ans, je gagne ma vie comme musicien à faire des gigs, tu sais.
Ouais.
Faire des gigs, à faire 200 gigs par année, tu sais.
Ouais.
Là, j'en fais un peu moins, là, j'ai slacké, mais tu sais, il y a des années que ça, tu sais, c'était comme sans arrêt, tu sais. Puis c'est cool, c'est le fun, tu joues de la musique, tu tripes, tu travailles, t'es fatigué. À la fin de l'année, tu te dis, bon, tu regardes ça, je suis capable de payer mes affaires, ça va. Je peux même en mettre un peu de côté. Mais Chris, j'ai l'impression d'avoir travaillé comme un esti fou. Puis si je compare à bien des autres métiers...
J'ai pas fait tant d'argent que ça.
Oui.
Ouais.
J'ai vraiment pas fait tant d'argent que ça. Puis la performance, à un moment donné, il y a une limite. Il y a un plafond, tu sais. Il y a un plafond, à moins de te mettre à charger...
Mais tu peux pas te mettre à charger parce qu'il y a plein d'autres mondes qui vont le faire pour moins cher.
Ils vont faire pour moins cher, exactement. Ouais. Fait tu finis que, justement... Si tu fais 40 000 dans ton année à faire juste de la gig, là,
t'as fait good une job, méchante bonne année.
T'as fait une petite année, tu sais.
Ouais.
Mais souvent, c'est pas ça, tu sais. Bien souvent, c'est vraiment pas ça. Fait que l'idée d'écrire des tunes pour de la TV, d'écrire des tunes qui passent à radio, qui jouent sur les radios satellites aussi, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup d'argent qui provient de là en ce moment. Ben là, tu reçois des chèques, t'as fait ta tune, mais après ça, tu dors, puis il y a de l'argent qui continue à rentrer, tu sais. Puis de n'importe quel homme d'affaires qui te va parler, il va dire trouve-toi une manière de faire de l'argent quand tu dors.
Quand tu
penses que c'est le premier truc qu'il nous a donné.
Absolument.
Toi, t'as-tu ce minding-là ou t'es juste ramassé à la bonne place?
J'ai pas eu ce minding-là parce que je viens pas d'une famille qui sait comment faire de l'argent.
OK.
Puis c'est tout des gens qui travaillent fort puis qui ont cœur à l'ouvrage, comme on dit. Mais c'est pas des entrepreneurs en tant que tels. Puis c'est pas des gens qui avaient des connaissances là-dessus. Fait que moi, j'étais un peu dans le néant. Mm-hmm. Tu sais. Puis ça a été une surprise pour moi de constater que, hein, wow! Je me rappelle la première fois que j'ai eu un chèque de droit d'auteur significatif, c'était pour l'émission Ramdam.
Ouais.
Puis encore aujourd'hui, tu sais, le monde me connaît pour les tunes de Marc Dupré, puis Marie-Mé, puis ainsi de suite, mais je veux dire, c'est rien ça, tu sais. Pour vrai, la chanson
pop. Ton Ramdam.
Non, mais Ramdam, mais même, j'ai fait plus d'argent avec des émissions que je vais te nommer que tu n'as jamais entendu parler.
Ouais.
qu'avec Marie-Mé, en droit d'auteur. Ouais. Bon, Marie-Mé, c'est sûr que tu es payé pour réaliser l'album, puis il y a d'autres affaires, mais quand on parle de propriété intellectuelle, puis d'écrire des chansons pop que tout le monde connaît, là,
ouais.
Je veux dire, j'ai fait plus d'argent à faire des musiques de télé que personne connaît que j'ai fait à faire des chansons qui ont joué à radio 1 million de fois que tout le monde connaît. C'est juste que la façon dont c'est, la structure est faite,
ouais.
C'est pas payant faire des tunes pop, tu sais. C'est juste pas payant faire des tunes pop au Québec. C'est ça qui est ça. Puis faire de la musique pour la télé, ça l'est plus.
Parce qu'à chaque fois que ta tune joue, chaque fois que l'émission passe,
ouais,
tu reçois une coupe de pièces.
Ben, tu reçois bien plus que si t'as une tune qui passe à la radio, tu sais.
Ouais.
Fait que moi, j'étais pas au courant de ça. Pas en tout. Moi, okay. J'ai travaillé à la radio, puis...
Pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont au courant de ça.
Ben, il y a beaucoup de monde qui sont au courant de ça. J'ai des gens qui me demandent des conseils, là, des nouveaux, là, qui ont eu une tune sur un album qui a joué 6 fois à radio, là, puis qui connaissent déjà 40 fois plus que moi le droit d'auteur.
Mm-hmm.
Moi, je suis tellement ignorant,
okay,
face à tout ça.
Je suis vraiment surpris par ce que tu me dis en ce moment.
Ouais, mais je comprends, mais c'est vrai que je suis vraiment nul, ouais, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pas ma force.
Ouais.
Tout ça. Puis deuxièmement, quand j'ai constaté que c'était vraiment plus payant faire de la musique insignifiante pour une émission de télé. Quand je dis insignifiante, ça veut pas dire que la musique est pas bonne, ça veut pas dire que l'émission de télé est pas bonne. Ça veut dire que la musique, elle a pas une grosse importance. Je veux dire, entre deux scènes de Ramdam, là, que Manolo, il est découragé, puis t'entends un petit accord de guitare découragé, puis après ça, t'as une autre scène, là.
Ouais.
L'importance de cette toune de 7 secondes-là est assez limitée.
Ouais.
T'sais? Puis c'est pas la star du show, puis il y a personne qui va fredonner ta petite passe, ouais, de guide.
OK, on parle pas juste du thème de Ramdam, tu faisais tout, la musique dans
score,
Ramdam.
Oui. Ouais.
OK, tout. Je comprends.
Fait que cette musique-là, elle a pas beaucoup d'importance en soi. Elle est importante comme étant un des blocs qui construit la patente. Mais versus Nous sommes les mêmes, qui est le plus gros hit de Marc Dupré,
ouais,
que c'est moi qui ai écrit.
Ouais.
Je veux dire, c'est sûr qu'au niveau égo puis au niveau au niveau de ce que ça signifie culturellement... Je veux dire, si je suis dans un party de famille chez Manuel Blonde puis qu'il me demande « Ah, t'écris des tunes, qu'est-ce que t'as écrit? »
Tu vas leur dire.
Tu vas leur dire
le petit accord triste de Manolo.
La transition quand Manolo, il est triste.
Ouais. Tu comprends? Fait que tu sais, en tant que musicien qui a grandi en écoutant des chansons pop puis qui a été touché par des chansons pop puis qui est encore touché, je veux dire, j'écoute la radio puis il y a une tune qui me touche puis je pars à brailler, je veux dire, je comprends la puissance de la musique. T'as envie de faire partie de ça puis t'as envie de contribuer au bassin culturel, puis t'as envie que quand tu vas mourir, tu sais, tes petits-enfants disent « Mon grand-père, il avait fait ce tune-là, tu t'en rappelles-tu? » Tu sais,
ouais.
Alors que si j'avais m'étais concentré à faire de la musique pour la télé, je serais bien plus riche aujourd'hui. Fait que quand j'ai commencé à recevoir mes droits d'auteur, puis je voyais que, tu sais, j'avais 3 hits d'André Waters, tu sais, qui m'avaient rapporté 4 700 $ pendant mon année, puis que j'avais 67 transition de Ramdam qui m'ont rapporté 27 400 cette année-là, j'aurais dit « fuck André Waters » puis « fuck tous les artistes pop, je vais faire de la musique pour la télé ». Tu sais. Puis je me rappelle de la croisée des chemins que j'ai vécu à ce moment-là, tu sais, puis que je me suis dit « qu'est-ce que je fais? » Tu sais? Parce que c'est clairement stupide d'écrire des tunes pop quand tu es capable d'écrire des tunes que personne ne va jamais dire, va jamais refuser.
Mm-hmm.
Parce que c'est la musique de télé qui a plus ou moins d'importance, puis tu vas faire bien plus d'argent. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant d'avoir 3 tunes d'André Waters sur un album, t'en écris 40, là.
Ouais.
Mm-hmm. Puis il y en a 37 qui sont refusés, là.
Fait que si tu fais ton salaire à l'heure, pareil, des tunes d'André Waters, c'est pas tant, là.
Non, puis ça n'a rien à voir avec André Waters, elle a eu un super gros succès, oh, tu sais. Ouais. Je dis, là, on dit son nom,
mais
on
pas de sa faute à elle, d'homme.
Non, non. Mais l'idée, c'est que je me suis dit, OK, oui, ouais, je vais continuer à faire de la musique de télévision, mais je peux pas arrêter de faire de la musique pop parce que, ouais, c'est ça qui me donne drive, l'impression de contribuer,
ouais,
musicalement, puis culturellement, puis qui me rende fier d'avoir eu une idée, puis que du monde que je connais pas vont la fredonner à un moment donné, tu sais.
Mm.
Fait que c'est un peu ça, là. C'est toujours un équilibre.
L'équilibre entre les deux.
C'est, ouais, fascinant. C'est fascinant. Juste d'un point de vue complètement externe, moi, j'ai rien à voir avec le milieu de la, mm-hmm, musique, tu sais. J'aurais vraiment pensé qu'au Québec, du moins, pour des tunes... Oh, tu sais, je veux dire, Nous sommes les mêmes, là. C'est probablement la chanson que j'ai entendue le plus souvent.
À radio.
De, ouais, toute ma vie. Tu sais, comme quand c'est pas moi qui... Tu sais, quand je suis pas sur Apple Music, là, tu sais, puis que...
Tu rentres dans ton char, tu vas à l'épicerie, là, ouais.
L'année où est-ce que c'est sorti, c'est v'là deux, v'là trois ans?
Ah, c'est bien plus vieux que ça.
Plus vieux que ça?
Ouais, je pense que c'est sorti en 2014.
Ah ouais, c'est bien. Ouais, le temps passe vite. Ouais.
Ça se peut que je sois dans
l'année,
le champ.
Mais... Non, mais tu le sais probablement ouais. mieux que moi. Là. Mais quand c'est sorti, là, je n'entendais que nous sommes les mêmes.
Ouais.
À radio. Là.
C'est mon plus gros hit, c'est sûr. Fois... Après le thème de Ramdam.
Ouais, c'est ça.
On dirait que nous sommes les mêmes, c'est comme l'exemple de la toune pop. Mais genre, tu sais, vraiment... bien construite avec le hook puis avec tout là,
le c'est refrain comme la, qui reste la tune pop ultime là, de l'histoire
c'est la tune pop ultime
ouais, je sais pas si c'est la tune c'est sûr clairement pas la tune pop ultime parce que je peux juste en sortir une liste de 400 millions de tunes meilleures que ça mais tu sais c'est une question aussi de timing puis c'était le bon artiste pour la tu sais la bonne tune pour le bon artiste au bon moment puis tu sais j'en suis super fier de cette chanson là tu sais mais tu sais, faut pas oublier qu'il y a une différence entre une bonne chanson puis un hit.
Mm-hmm.
Il y a plein de chansons qui sont incroyables, mais qui sont pas nécessairement des tunes pour la radio. T'sais.
Ouais. Ouais, je veux qu'on parle justement un peu de ça. Prenons l'exemple de Nous sommes les mêmes.
Ouais.
Comment cette tune-là est née? C'est quoi, ça a été quoi le processus de la toune jusqu'à temps qu'elle tombe dans les radios, mettons.
Ben, c'est un bon exemple parce que cette toune-là a une trajectoire peu commune,
okay.
En tout cas dans mon cas. Là,
c'est pas un archétype qui se passe souvent pour toi.
Non, okay. Parce que tu sais, d'habitude, moi, je commence un projet avec un artiste puis je fais pas trois projets en même temps. T'sais. Fait que si je fais un album de Marc Dupré, on s'assoit, on écrit des tounes, on enregistre l'album, on sort l'album, après ça, je passe à autre chose.
Okay.
Mais Nous sommes les mêmes, j'avais écrit pour Marie-Mé. Ben, en fait, je l'écris avec Marie-Mé. Fait que j'ai composé la musique, puis on a fait les paroles ensemble.
La même tune-là, exactement comme
note pour note.
Marie-Mé qui chante.
Marie-Mé qui chante. Je l'ai, je peux te faire entendre drette là dans mon
Oui.
OK. Absolument. Pendant que je continue à parler, je vais la sortir.
T'as-tu un jack sur ton téléphone?
Oui, j'ai un jack sur mon téléphone.
On pourrait la mettre dans
C'est un vieux téléphone. J'étais minimaliste, hein, oublie pas. Tant que ce téléphone-là va fonctionner. Mais je l'ai écrit... pour l'album de Marie-Mé, puis on avait écrit peut-être 15 tunes pour en choisir 12.
Okay.
Puis vers la fin, on a fait une écoute avec la compagnie de disques, puis la gérance, puis tout le monde impliqué dans le projet. Puis tout le monde fallait qu'ils mettent leur tune préférée en ordre, tu sais. Puis pour que finalement, on fasse un genre de palmarès des 12 meilleurs, puis qu'on flush les 3 qui revenaient le moins souvent dans les tunes préférées. Puis celle-là, elle est arrivée dans les moins préférées.
OK.
Fait qu'on l'a flushé de l'album. Puis moi, je me disais, what the fuck? T'sais.
Tu l'aimais vraiment?
Je l'aimais vraiment, mais je me suis pas rebellé contre ça. Fait que, tu sais, si j'avais vraiment mis mon pied à terre, mm-hmm. on l'aurait mis sur l'album. Mais je devais probablement être un peu d'accord.
Mm-hmm.
Puis après ça, j'ai embarqué sur l'album de Marc Dupré. Puis habituellement, je fais pas entendre des tune reject de d'autres artistes pour essayer de les pitcher, mais Marc, il m'a demandé, parce que Marc, il aimait vraiment mon travail avec Marie-Mé, puis. Il dit, vous avez pas des affaires là, qui étaient trop pop pour l'album? Parce que Marie-Mé, c'était quand même plus intense puis plus rock, tu sais, grosse guitare que Marc Dupré.
Ouais.
Puis je lui dis, ah, je peux te faire rentrer une couple d'affaires, peut-être de quoi sur lequel tu vas accrocher, au pire, un refrain qu'on réutilisera. Ou, tu sais. Puis quand on est tombé sur Nous sommes les mêmes, je me rappelle que Marc a pogné un 2 minutes puis il a fait comme, what? Vous avez pas gardé cette tune-là? Je veux dire, lui pour lui, instantanément, mais Marc, faut dire qu'il a une oreille incroyable puis. Il sait c'est quoi un hit, là? Ah, c'est ça, ça joue-tu déjà?
On peut mettre ça.
Oh, on la plug-tu, peut-être?
Oh, on va mettre ça dans le mix.
Mets-toi, Nicole. Ouais.
Pouvez-vous couper ou on va tout voir ce plugage-là?
C'est pas grave. On va mettre ça dans le mix, c'est en exclusivité.
Yeah, man. En tout cas, lui a entendu la toune. Je vais parler comme un animateur radio sur l'intro. Puis il a dit, on fait ça. Fait que j'ai trouvé une tonalité pour lui.
Ouais.
Puis il dit, elle est un petit peu slow. Fait qu'on l'a mis peut-être... C'est le
regard. Puis, oh, mettons, ouais. Ça, ce qu'on entend, là...
C'est la maquette.
C'est une maquette, là. C'est pas une version finie.
Je fais pas de maquette, en fait. Jamais.
OK. Fait ta maquette, ça va finir d'être la version...
M'a la mixé, m'a remplacé le drum ou, tu sais.
OK.
Oh, ouais. Ça fait tellement bizarre d'entendre ça. J'ai tellement entendu ça. Toujours prêt à tout pour
Un petit peu plus rock.
Ouais, avec la guitare. Ouais.
La guitare un peu plus éveillée, moins pas d'acoustique.
Ouais.
Ah ouais. Mais c'est la même affaire. Ouais.
C'est malade. Puis est-ce que...
Fait que ça, c'est atypique. Ouais, cette tune-là, fait que, mais Marc, il a capoté dessus. Il a tout de suite entendu. Faut que je donne le crédit parce que il s'en est plus rendu compte que nous autres que c'est un hit. Je vais te déploguer, ça va faire un buzz. C'est bon. Fait que on l'a enregistré, puis ça a été ça qui était ça. Fait que c'est ça la trajectoire de cette tune-là. Ouais.
Est-ce que tu penses que ça aurait eu le même succès avec Marimé?
Aucune façon de le savoir.
On le saura jamais.
Hein. Non, mais...
Ton instinct, mettons. T'en as vu passer.
Mais tu disais que c'était la bonne. Mais pas, je peux pas dire parce que, tu sais, quand cette toune-là a été rejetée de l'album, Marie-Mère m'en a fait écrire une autre. Puis ça a été « Je cours », puis ça a été un gros hit aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis c'était mieux pour elle, je pense, que tu sais, faut que je fasse confiance à Marie-Mère parce qu'elle aussi n'était pas certaine de ce tune-là.
Okay.
Puis quand Marc l'a sorti, tu sais, elle aurait pu être comme déçue finalement. Ah fuck, si je viens donner un hit à quelqu'un d'autre, mais ça n'a jamais été ça son attitude. Tu sais, elle me disait depuis le début, tu sais, elle fait mieux à Marc.
Mm-hmm.
C'est vrai, c'est comme un morceau de linge. Là.
Ouais.
C'est pas parce que ça me fait bien à moi que ça va faire bien à tout le monde. Tu sais.
C'est ce que tu as dit, c'est la bonne tune pour le bon artiste.
La bonne tune pour le bon artiste. Ouais. Fait qu'il n'y a aucune façon de le savoir, puis ça donne rien d'essayer de se poser la question. Tu sais,
fait que toi, tu n'écris pas des tunes chez vous, mettons, tu écris une tune, puis bon, à qui ça ferait bien cette tune-là? Ça arrive-tu ou.
Non.
Non.
Non. J'écris rarement pour rien. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, oui, mais on dirait que je me garde pour le prochain projet. J'en écris des affaires. Là. J'ai fait un album métal avec un de mes chums là, un an ou deux. Pis, mais c'est vraiment rare. T'sais. D'habitude, c'est comme, OK, il y a un artiste qui m'appelle. Comme dernièrement, Marc Dupré sort un album dans deux semaines. Là, deux semaines, il m'appelle. Il dit, j'ai fini mon album, mais je veux qu'on fasse une tune ensemble. Je sais que tu es sur l'album de Ludo, mais il tourne son... J'ai joué au hockey avec. Ça, c'est même pas une joke. Parce qu'il m'avait appelé pour son... T'sais, on veut toujours faire de la musique ensemble, moi puis Marc, puis ça donne pas tout le temps. Lundi, j'ai joué au hockey avec Ludo, puis il m'a dit qu'il tournait son clip lundi puis mardi. Fait que ça veut dire que tu travailles pas avec lui lundi puis mardi, on fait une tune ensemble pour mon album. C'est comme s'il m'a mis dans
t'avais
un coin.
T'avais pas le choix, là.
Fait que j'ai dit, ah, OK, viens-t'en, tu sais. Fait qu'il est venu, puis on a écrit une tune lundi, on l'a enregistré mardi, puis c'est ça.
En dedans de deux jours, tu peux avoir une tune finie.
Ben, c'est rare, ça prend plus que deux jours.
Ah, oh, ouais.
Ouais.
Ah, oh, ouais.
Ouais. Fini, mixé, mastery, ready to go.
Ben
deux, c'est deux grosses journées, là.
Mais mettons, fait combien d'heures tu peux mettre dans une toune?
20, peut-être.
20 heures, t'as une toune finie?
Ouais.
Wow.
20 heures. Faut que... Pas le temps de niaiser.
Pas le temps de niaiser.
Ça a-tu toujours été ça ou bien c'est vraiment avec le temps? Puis l'habitude?
Ben la technologie aide, tu sais... Fait que la technologie aide parce que, tu sais, bon, à l'époque... Fallait que, tu sais, si j'enregistrais des fausses guitares, après ça, fallait que je les repasse dans les vrais amplis, puis du reamping, puis bon, plein d'affaires techniques, tu sais. Puis, mais maintenant que, tu sais, tout ce que tu fais, tu peux le garder, parce que, tu sais, la technologie permet d'enregistrer n'importe quoi, n'importe quand, puis que ça sonne bien, tu sais. Fait que, tu sais, deux jours, tu sais, trois jours, tu sais, d'habitude, je budgète trois jours par tune, tu sais, pour un album, là, tu sais, parce que. Tu sais pas, tu sais, des fois, ça peut être un peu plus long de trouver les paroles, ou des fois, tu fais affaire avec un parolier pour les paroles, puis il va pas nailer la patente du premier coup, fait que t'as du back and forth, tu sais. Fait que si tu budgètes trois jours, mais tu sais, ce que j'aime faire, c'est, tu dis, si tu fais une semaine par toune, là, t'as le temps d'en écrire plus que 12, tu sais. T'as le temps d'expérimenter un peu plus, t'as le temps des fois d'écrire deux, trois sets de paroles pour la même chanson, tu sais. Fait que, mais tu sais, quand ça va bien, deux jours, là, t'es censé être capable de...
Ah ouais? Puis là, tu joues tout. Fait que t'engages du monde ou t'engages personne?
Ben, tu sais, en deux jours, non. Tu sais, t'engages personne en deux jours. C'est pour ça que, tu sais, je me budgète trois jours parce que souvent, moi, je suis tanné de m'entendre. Surtout à la guitare. Ouais. Je suis tanné de m'entendre. Tu sais, je suis tanné de mes idées, je suis tanné de mes sons. Fait que souvent, je vais faire toutes les guitares de base, puis après ça, je vais engager quelqu'un d'autre, puis je vais muter des affaires qui m'énervent dans mes propres tunes, tu sais. Que je trouve que ça sonne trop frais de Saint-Gelais. Puis je vais engager quelqu'un d'autre. Puis je vais dire, qu'est-ce que t'entends, tu sais? Fait que j'envoie la toune au gars.
Avec des trucs mutés.
Ouais.
Puis il fait ses tracks chez eux, puis travaille ça.
Non, non, il écoute la toune, okay. Puis il arrive chez nous avec plein d'idées. Puis okay. J'engage souvent Guillaume Doiron, que tu connais sûrement. Ouais, ouais, ouais. Parce que Guillaume Doiron, c'est un extraterrestre. Tu sais. Ouais. Il a vraiment des... Il a toutes les idées que moi, je suis capable d'avoir, fois mille. Tu sais, puis en plus, toutes les idées que moi, je ne penserais jamais. Tu sais. Il a dédié sa vie à la guitare. Tu sais, quand moi, j'ai délaissé un peu la guitare, puis j'ai commencé à écrire des chansons, puis à apprendre les autres instruments, puis les arrangements, puis l'engineering, puis le mix. Lui, en parallèle, il continuait à être focusé sur la guitare, puis encore aujourd'hui, tu sais, il pratique à tous les jours, puis il est tout le temps à l'insu de... Pas l'insu. Il est tout le temps à l'écoute des nouveaux sons, à l'affût des nouvelles sonorités, le nouveau guitariste de telle band, puis celui qui t'as-tu entendu, puis le gear, puis tout. Tu sais, il est incroyable. Là, ouais. Fait, lui, il m'inspire. T'sais. Quand il passe chez nous, souvent, là, t'sais, il y a peut-être la moitié du disque. T'sais, il y a des tunes que je suis bien content, comme ils sont sortis t'sais, en deux jours avec moi qui fais tout. Là. Puis il y a des tunes que je me dis, ça prendrait un petit X-Factor, un épice t'sais, que j'ai pas dans mon garde-manger. Là.
Ouais.
Fait que j'engage du monde pour ça. T'sais. J'ai un gars que j'engage pour faire de la programmation de keyboard puis de sound design qui va m'arriver avec des sons que j'aurais jamais pensé. Puis j'ai Guillaume Doiron qui fait des guitares ambiantes auxquelles j'aurais jamais pensé. Puis moi, ça renouvelle mon enthousiasme à ma propre musique. T'sais, des fois, quand tu travailles sur un album pendant des mois, en fin de course, là, quand tu es sur le bord de mixer l'album, tu es écœuré d'entendre les tunes puis tu te demandes si elles sont bonnes juste parce que tu les as trop entendues.
Ouais.
Avoir quelqu'un qui va venir rajouter une petite épice inattendue par-dessus, ça renouvelle mon enthousiasme. Fait que quand j'arrive dans le stade de mixage, puis le stade de mastering, qui sont les deux derniers stades de production d'album, mais ben là, tout d'un coup, je suis comme content de réentendre les tunes après des mois de les entendre de la même façon. Fait que,
ouais. C'est dur de garder une objectivité puis un recul justement sur des tunes que tu as trop entendues.
C'est là, tough. C'est tough, mais tu sais, je pense que c'est une de mes forces, là, mais... Puis aussi, tu sais, après des années, tu sais, les albums de Marimé, la plupart des tunes, tu sais, il n'y avait absolument personne d'autre sur les tunes, tu sais, puis... Depuis ce temps-là, j'engage de plus en plus de monde, surtout pour moi. T'sais. Je sais que je pourrais les faire moi-même, puis il n'y a jamais personne qui s'en est plaint, mais moi, j'ai envie d'avoir envie de l'écouter.
Ouais, ouais, fait que... T'as envie aussi d'apprendre du monde. Là. Rester tout le temps tout seul aussi, c'est que
chaque personne a quelque chose
à... Ouais, c'est ça, chaque personne a des nouvelles affaires à t'apprendre et à t'offrir. Là.
Exactement.
Est-ce que tu travailles des fois à partir d'un texte? Ça arrive?
Ça arrive, ouais. J'aime vraiment ça, faire ça.
Mettons, as-tu des exemples ou est-ce que... Parce que ça semble pas être ton go-to, là. Tu sais, ça...
Ben, c'est drôle parce que j'ai commencé de même. Quand j'ai commencé à écrire des tunes, je faisais tout le texte en premier.
OK.
Puis c'est...
Excuse-moi de relancer la question. Est-ce que tu... Quand t'écrivais ton texte, est-ce que t'écrivais avec en tête une sonorité?
Pas vraiment, non.
T'écrivais un texte comme moyen d'expression.
Exactement.
Qui était un texte.
Exactement. Okay. Tu sais, j'essayais qu'il y ait une certaine rythmique dedans, tu sais, mais c'est très limitatif comme approche. Mm-hmm. Mais comme je disais tantôt, les limites sont souvent un bon outil pour diriger la créativité. Fait que je te dirais que c'est moins courant maintenant parce que je coécris souvent avec l'artiste. Puis j'essaie de laisser l'opportunité à l'artiste de donner son... ses émotions en premier. Fait que je vais écrire une mélodie, musique, puis qu'est-ce que ça inspire à l'artiste? De quoi il veut parler? T'sais? Fait que souvent, l'artiste va avoir un titre, va avoir une couple de phrases, puis on va partir de ça pour construire le texte ensemble. Fait que c'est un peu plus facile comme ça, puis ça t'assure d'avoir une chanson qui va coller à la peau de l'artiste encore plus. Mais sur le dernier album de Ludovic qui va paraître au mois de février, la première tune du disque qui s'appelle « Bonsoir, solitude ». C'est un texte qui nous a été envoyé par Nelson Mainville, qui est un parolier hallucinant, qui a écrit plus de hits que n'importe qui d'autre. Puis le texte était incroyable. Puis écoute, je pense que ça nous a pris, moi plus de vie qu'on s'est assis, on a vu le texte, on a capoté, puis on a fait la musique en 15 minutes.
Oh ouais.
Toute la mélodie, les accords, c'est comme un cadeau du ciel parce que les textes, c'est souvent la chose qui prend le plus de temps.
Mm.
Puis je veux dire, tu peux pas faire de compromis, là. Puis c'est moins intuitif écrire un texte qu'une musique. Une musique, tu peux avoir une mélodie qui te pop dans la tête, tu pognes la guitare, tu fais deux accords, puis tout d'un coup, t'es parti, tu sais. Mais un texte, c'est un côté un peu plus cérébral, puis tu peux pas faire de compromis. Puis c'est difficile, en français, c'est encore plus difficile de faire de la bonne musique pop qu'en anglais, tu sais.
Mm-hmm.
On dirait qu'en anglais, la sonorité des mots fait que tu peux dire un peu n'importe quoi, puis c'est éloquent puis ça sonne bien. En français, c'est toujours un peu plus difficile. Fait que...
Faire de la musique pop, justement, avec Marimé ou avec d'autres artistes, est-ce que ça a été des fois des espèces de casse-tête de « OK, comment qu'on fait de la musique pop en français ?» Puis que ça sonne bien, puis que ça soit pas bizarre ou quétaine ou quoi que ce soit.
Ben, écoute, ça se peut que ça ait déjà souvent été quétaine, là, tu sais. Je suis pas bon juge pour ça, mais faut que tu ailles à l'intuition. Mais une des bonnes façons de le faire, c'est de faire la maquette en anglais.
OK.
Puis après ça, de trouver un texte en français qui sonne aussi bien que la maquette en anglais. C'est comme si ça met la barre haute au niveau sonorité. Pas parce que la musique en anglais, c'est meilleur que la musique en français, mais ça sonne plus facilement bien. Ouais. C'est juste une question phonétique, tout probablement. Fait que ça, c'est une bonne façon de le faire. Puis c'est juste une question de travailler jusqu'à ce que tu sois absolument certain que tu as atteint le maximum de ce que tu pouvais faire. Mais c'est tough. C'est l'affaire la plus difficile. Puis c'est souvent ce qui fait que ça va te prendre 6 mois à faire l'album plutôt que 4 mois, tu sais. Wow. Parce qu'on n'a pas tous les textes. Mm. On n'a pas tous les textes. On peut refaire des fois un texte 2, 3 fois, 4 fois. Je faisais le ménage de mes folders de Ludovic aujourd'hui là, parce que j'ai remis l'album cette semaine. Puis j'ai des chansons que j'ai 6 textes en français. Puis c'est le 6e que finalement a fait de la cote. Ouais. Okay. C'est pas parce que c'est de la haute poésie nécessairement. Ça peut être super simple puis super accessible, mais faut que ce soit juste.
Une question de son, ouais. Faut que ce soit juste.
Faut que ça sonne bien. Faut que ce soit éloquent, mais faut que ce soit accessible. Il y a un paquet de cibles qu'il faut atteindre, à mon sens, pour que ça soit efficace, puis que ça marche, puis que ça soit... Tu sais, des fois, tu reçois un texte, puis il est super, mais il ne fit pas avec l'artiste, tu sais. Si tu te fermes les yeux, puis tu imagines l'artiste dire un mot, puis tu penses qu'il ne connaît pas ce mot-là, ça ne marche pas, tu sais.
Ouais.
Puis tu sais, un bon exemple, c'est... Tu sais, Ludovic, là, c'est une personne super intelligente, là, puis il a une super conversation, puis... Mais je veux dire, c'est quand même un dude dans la vingtaine qui fait de la musique pop, sing along, tu sais. Tu vas pas utiliser le même vocabulaire que dans une toune d'Ingrid de Saint-Pierre, tu sais.
Non.
Qui est quelqu'un de beaucoup plus cérébral puis de beaucoup plus intellectuel, tu sais.
Ouais.
Puis souvent, Ingrid, elle écrit 2 chansons sur le premier album de Ludovic puis 1 chanson sur le dernier album de Ludovic, puis il y a des mots que je dis, OK, c'est-tu quoi ça? Si moi, je suis obligé de le googler, là, c'est sûr que les fans de Ludovic, il y en a une grande partie qui vont pas connaître le mot, là, tu sais, qui ont 17 ans puis que, tu sais... Puis c'est pas de sous-estimer les fans, mais c'est de comprendre à qui tu t'adresses. Puis Ludovic, c'est une de ses forces. Il comprend son public, puis il fit avec son public de façon naturelle. Puis ça, c'est une des affaires qui est la plus importante. C'est même pas de comprendre son public. T'es pas obligé de comprendre ton public, mais il faut que ce que t'as à dire s'enligne avec ce que ton public potentiel a envie d'entendre. De façon naturelle. Puis les meilleurs artistes, ils comprennent ça instinctivement.
Ouais.
Tu sais? Puis je rencontre souvent des artistes. À un moment donné, il y a un artiste pop que je n'aimerais pas, qui a fait un album vraiment à gauche, de gauche. C'était incroyablement bon. Mais je me rappelle d'avoir dit à l'artiste qui me demandait mon avis, tu sais, j'ai dit, c'est-tu quoi? Je suis obligé de te dire que je pense pas que tu vas faire un hit avec ça. Parce que les gens qui écoutent ce style de musique-là, habituellement, ils vont pas acheter un album de toi. Parce qu'ils ont déjà leur idée préconçue de ce que toi, tu représentes culturellement. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, Marie-Mé décidait de faire un album à la Marie-Pierre Arthur.
Ouais.
Je veux dire, les fans de Marie-Pierre Arthur, ils vont pas acheter un album de Marie-Mé. En général.
Puis les fans de Marimé, ils vont pas triper sur ça.
Ils vont pas triper là-dessus.
Ouais.
Puis même si Marimé faisait un album 1 milliard de fois meilleur qu'Ariane Moffat, puis Marie-Pierre Arthur, puis Ingrid Saint-Pierre, dans le même style, les fans de ces artistes-là, c'est souvent pas des fans de Marimé. Fait que ça donne pas grand-chose.
C'est dur se rebrander au complet, là. Ben, puis changer de style, changer d'image, changer de tout du jour au lendemain.
C'est difficile. Ça peut être fait si c'est fait de façon authentique puis cohérente.
Ouais.
Il y a des artistes qui ont réussi, tu sais. Comme Alanis Morissette dans les années 90. Je veux dire, au début des années 90, fin 80, elle faisait des albums hyper pop à la Britney Spears, tu sais. Puis elle a réussi vraiment à faire un 180 degrés. Mais elle a sorti un des meilleurs albums des 30 dernières années. Fait que, tu sais, si tu le fais, là, faut que tu le fasses.
Faut que ce soit bon.
Faut que ce soit faut pas que ce soit bon, faut que ce soit génial, faut que ce soit indéniablement génial. C'est comme vraiment renverser la vapeur puis renverser le courant ouais. de façon complète. Il faut que tu arrives avec quelque chose de complètement ridiculement bon.
Puis toi, en tant que réal, tu sais, on t'associe puis t'as surtout travaillé sur des projets plus pop, là, tu sais, Ludovic ouais. Bourgeois, Marie-Mé, Marc Dupré. Aurais-tu le goût de te lancer dans un projet full champ gauche? Là? Ou bien tu te dis, ah, ça, c'est juste pas pour moi?
Ben moi, j'aime tellement de styles différents que je sais très bien que j'ai tout ça en stock, là.
Ouais.
T'sais, tu pourrais le faire. Un album hip-hop, là, ou faire un album hyper champ gauche, folk, super. Mais je comprends pourquoi ces artistes-là m'appelleront pas.
Ouais.
Mais est-ce que tu répondrais?
Oui, je répondrais certain. Ben oui, absolument. Absolument, tu sais. Mais je comprends quand même, d'un point de vue marketing, puis d'un point de vue name-dropping, puis d'un point de vue cohésion, pourquoi, en général, c'est pas ce monde-là qui m'appelle, tu sais. Puis je suis bien correct avec ça.
T'sais. Tu penses pas qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est parce que tu voudrais pas?
Peut-être. Parce mais
ou que tu pourrais pas.
Ouais.
Ouais, absolument. Puis encore une fois, faut accepter le principe de... nous aussi, on met des gens dans des boîtes.
Ouais.
Mm-hmm. Je veux dire, moi non plus, j'appellerais pas nécessairement...
T'appellerais pas Tire le Coyote pour faire son prochain album, mettons.
Ben non, mais j'appellerais pas non plus les Sœurs Boulay pour écrire une chanson pour le nouvel album de Marc Dupré, même si elle pourrait probablement faire une tune incroyable. C'est juste que c'est comme pas ton first call, tu sais. On met les gens dans une boîte, puis j'essaie quand même de m'efforcer à mélanger les effluves des fois, puis faire des espèces de rencontres improbables.
Ça serait fort, par exemple.
Oui.
Philippe Braque qui écrit une tune pour Ludovic Bourgeois, mettons. Là.
Ben le pire, c'est qu'on l'a fait avec Ingrid Saint-Pierre,
okay, ouais.
qui a écrit deux tunes sur le premier album de Ludovic, qui ont été les deux tunes des extraits, puis ont été les deux tunes numéro un.
Ah ouais. Mmh.
Puis, ça a été... Il y a encore une fois, il faut que je donne le crédit à Véronica Sylvestre, à l'époque, qui a eu comme ce flash-là. Puis, je me donne le crédit d'avoir fait comme « fuck, on l'essaye ». Puis, finalement, ça a été super concluant. Fait qu'il y a plein d'affaires comme ça qui se font de temps en temps. Ouais. Puis, c'est des belles surprises. Mais je comprends quand même pourquoi, je veux dire, on met les gens dans des boîtes. Fait qu'il faut pas se fâcher quand les gens nous mettent dans des boîtes, nous aussi. T'sais.
Mais des fois, ces genres de mix hybride-là, ça sonne faux, puis ça paraît. Tu sais, je me rappelle, on en parlait justement un petit peu plus tôt avec Roxane Bruno, là, qui était venue sur le podcast, puis on parlait de Jean-Marc Couture.
Wow, ouais.
Jean-Marc Couture, son premier album, je ne sais pas si tu avais travaillé là-dessus ou non.
Oui, j'ai fait une toune, ouais.
C'était la toune avec... c'était écrit par Daniel Bélanger.
Ah oui. C'était les Ton Désir.
Ouais, c'était les Ton Désir, puis Jean-Marc Couture, moi... Tu sais, toi, tu le connaissais avant. Ouais. Moi, je l'avais rencontré une fois. Je connaissais le personnage. On l'avait vu à Star Academy. Il était rocker, un peu, tu sais, comme pas ouvert tant que ça sur ses émotions. Puis,
un homme de peu de mots.
Puis, je me rappellerai toujours de la première phrase de « Si tel est ton désir » qui était « Le ciel est bleu comme je me sens vieux à noircir mes nuits blanches. » Puis là... Moi, j'entends ça, c'est comme c'est Daniel Bélanger qui dit ça, là, tu sais, c'est pas Jean-Marc Couture qui me dit ça.
Tu te dis cette phrase-là, puis t'entends la voix de
Daniel Bélanger. Ouais, c'est ça, c'est comme ça, c'est une phrase de Daniel Bélanger, là, clairement, ouais, dans son univers, clairement, ça lui appartient, tu sais, puis là, probablement qu'il s'est fait demander, « Hey, on a besoin d'une toune, écris-en une pour Jean-Marc Couture », puis là, c'est comme t'entends ça, puis c'est... Hey man, c'est pas le Jean-Marc que je voulais consommer, ou tu sais, puis c'est encore moins le Daniel Bélanger que je voulais consommer, tu sais. Fait que c'est comme un hybride qui fonctionne pas. À mon avis, ça a peut-être levé cette tune-là.
Pire, c'est que ça a été un gros hit.
Ouais.
Fait que, encore une fois, tu sais, le plafond de quelqu'un et le plancher de quelqu'un d'autre.
Exactement.
Puis il y a un moment donné, Christopher Ward, qui est un auteur-compositeur canadien incroyable, il a écrit Black Velvet d'Alana Miles, entre autres, qui est un succès international, tu sais. Puis j'ai écrit plein de tunes. J'ai eu la chance d'écrire plein de tunes avec lui. Puis à un moment donné, je me rappelle pas, on était en char, puis il y avait une toune qui jouait, puis j'ai bitché sur la toune, tu sais.
C'est la mienne.
Non. Okay. Il m'a dit, peut-être t'as raison, mais tu peux pas t'ostiner avec le succès.
Ouais.
Il m'a dit ça. Ah, you can't argue with success. Fait que tu sais, des fois, puis ça a changé ma vie, cette phrase-là, parce que à un moment donné, c'est facile de tomber dans le snobisme puis de tomber dans le « Ah, ben moi, j'aurais pas fait ça. Ah, ben c'est tellement plate, ce tune-là. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui aime ça. » C'est quoi? T'as pas besoin de croire qu'il y a du monde qui aime ça s'il y a déjà du monde qui aime
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Ils ont c'est
pas
des faits.
Ils t'ont pas demandé ton avis, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est une bonne façon d'approcher la critique, de se dire « C'est quoi? C'est même pas moi qui décide. » C'est les gens qui décident. Oui. Il y a John Mayer, à un moment donné, qui donnait une conférence à, je pense, à Berkeley. C'est une université à Boston où ouais. Le programme musical est vraiment super reconnu. Puis lui, il a étudié à Berkeley. Puis il donnait une espèce de conférence à Berkeley devant les étudiants en musique. Puis il dit, levez votre main, ceux d'entre vous qui pensent que vous avez une meilleure oreille que la personne moyenne qui écoute la radio. Puis là, c'est évidemment tous des musiciens. Premièrement, des musiciens qui ont été acceptés à Berkeley. Ouais. Fait que c'est tous des virtuoses puis des gens qui ont un talent fou. Il y a plus que la moitié du monde qui se lève la main. Puis lui, il dit, vous êtes tous dans le champ. Il dit, il n'y a personne de nous qui a une meilleure oreille que le public parce que c'est eux qui décident qu'est-ce qui est bon. Nous, on peut décider qu'on va rajouter 83 accords puis 50 000 changements de tempo puis de tonalité dans notre tune puis de modulation puis de faire ça super intelligent puis super virtuose. Mais si le public en général ne veut pas l'entendre, c'est eux autres qui décident. C'est leur oreille qui est le juge final. Fait que moi-même puis toi puis n'importe qui est le moindrement impliqué dans, professionnellement en musique, on est sujet au jugement du citoyen moyen qui écoute la radio dans son char. Puis moi, je trouve que c'est une bonne façon de garder une humilité. Mm-hmm. C'est bon pour la santé de penser comme ça.
Hey Fred, on ne veut pas prendre toute ta soirée. mais c'est vraiment parce que les deux, on était là. C'est-tu que c'est intéressant? Pour vrai, d'avoir l'espèce d'inside de genre comment ça se passe, mais en dessous, tu sais, en dessous de la couche qu'on ne voit pas. Mm-hmm. C'est ça qui est le fun. C'est vraiment ça qui est le fun.
Ouais. Ben, merci bien. Ouais. Ça me fait plaisir d'être là.
Excuse-moi.
Ouais, vas-y.
J'ai des amis qui... En fait, je checkais ton Instagram l'autre jour, puis là, je scrollais un peu, puis là, j'ai vu un visage que je connaissais. Je viens de mes amis, Olivier Quirion.
Ah
tu
oui?
Tu ouais, c'est, oui. Dans le fond, t'as joué avec Rémi Chassé.
Oui.
Puis lui, il est bassiste là-dedans.
Ben oui.
Fait que là, j'ai écrit, je fais, hey, je pensais justement écrire à Fred pour l'inviter au podcast, mais tu l'as rencontré dans ma life. Puis premièrement, il m'a dit, invite-le, ce gars-là, des histoires incroyables. Puis il m'a dit, ce gars-là, c'est le musicien le plus préparé que j'ai vu de ma vie.
Ah ouais, hein?
Ouais, il m'a dit, t'es arrivé sur la gig, on aurait dit qu'il l'avait fait 100 fois. Il dit, il est arrivé, il connaissait toutes les tunes, il faisait ses bacs avec une assurance d'un gars qui a chanté son bac 100 fois, là, tu sais.
Ouais, mais c'est parce que Hubert Maheu, le guitariste que je remplaçais, c'était une machine.
C'était malade, ce gars.
On s'entend. Il a écrit les tunes avec Rémi.
Ouais.
Tu sais, moi, encore une fois, la trampoline, tu sais. Tu veux servir l'artiste, puis tu veux aider l'artiste à raconter son histoire. Puis c'est vraiment juste ça. Puis aussi le fait que j'ai une réputation. Calvaire, je ne veux pas avoir l'air de prendre la gig pour acquis, tu sais. Puis, puis aussi Rémi Chassé, c'est incroyable, sa musique, là.
Oui.
Puis tu sais, je veux dire, c'est pas super payant de dire je vais apprendre
un show, faire une fois.
Je vais faire une fois, tu sais. Ouais. Mais moi, j'étais au lancement de l'album de Rémi Chassé, puis j'avais chié à terre.
Ouais. Oh, ouais.
J'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Sacrament.
Non, ouais,
c'est aussi bon que les Foo Fighters puis que n'importe quoi d'autre qui me fait triper, tu sais, qui vient des États-Unis puis de l'Angleterre. Je me rappelle, j'y avais écrit, tu sais. J'étais à ton lancement, tu me connais pas, mais j'ai pogné mon 2 minutes, tu sais. Puis quand il m'a appelé pour le show, j'ai fait comme « Ah oui! » J'ai dit oui tout de suite. Après ça, j'ai écouté les tunes, j'ai fait comme
« OK.
» Dans quoi je me suis embarqué? Parce que justement, il y a des backs vocales tout le long.
Ouais.
Puis des riffs de guitare hyper, ben pas hyper compliqué, mais quand même assez compliqué, puis syncopé avec des rythmiques quand même qu'il faut que tu checkes, tu sais, puis qui n'ont rien à voir avec ce qu'il faut que je chante. Fait que, écoute, il a vraiment fallu... Je suis toujours préparé, sauf que là, au lieu que ça me prenne 2 jours de monter le show, ça m'a pris une semaine au complet là, à pratiquer vraiment. Je voulais faire bonne figure, mais je voulais surtout que le show soit pas significativement moins bon que quand c'est Hubert qui le fait, tu sais. Puis Hubert, c'est des grosses chaussures à chausser, là, fait que...
Non, vraiment, c'est vraiment...
J'ai dit... Ben, je suis content que c'est comme ça que ça a été perçu, parce que moi, je trouve pas que c'était parfait, là, mais c'était vraiment le fun, tu sais. C'est un chanteur incroyable, les tunes sont hallucinantes, son band, c'est un band de feu, tu sais. Tu veux pas être le maillon faible de l'équation, tu sais.
Non, je comprends, mais tu sais, n'empêche d'arriver sur le premier show, la première fois que tu le fais, t'es aussi solide, c'est quand même chapeau, là, tu sais.
Ben merci, alors, on essaye de pas décevoir.
Ben oui. Puis j'ai un autre de mes amis, Guillaume Saint-Laurent, que tu connais aussi.
Guillaume, c'est le plus cool des plus cool des plus cool.
Et moi, j'ai passé mon été avec sa Mamma Mia. Moi, j'ai
je sais. Je savais que tu étais là-dessus.
Puis que du bien de toi. Je pense qu'on a travaillé ensemble il n'y a pas longtemps. Je sais pas
trop. Oui. On travaille aussitôt qu'on peut, on travaille ensemble. Il est tellement fin, tellement talentueux. Tu sais, c'est une machine. Là.
C'est un pianiste de génie. Là.
Ah, c'est un pianiste, c'est un arrangeur. Il fait des arrangements orchestrales. Incroyable, avec trois sons de Logic Pro. Là. C'est un fou furieux.
Mais il m'a dit, Fred Saint-Gelais, ce gars-là, c'est le gars le plus focus sur son travail. Tu sais, que quand tu travailles, c'est comme, il n'y a pas d'interférence. Là.
Marc Dupré, il m'imite.
OK.
Il est tellement cave. Là. De toute façon, tout le monde le sait, là, mais en studio.
On veut le recevoir, Marc Dupré, ici.
Ah, écoute, il est tellement vite sur les jokes, sur les niaiseries. Là. À un moment, tu sais, c'est un imitateur, mais il a tous les talents. T'sais. À un moment donné, moi, dans mon triplex, là, carrément, je change de sujet. Il est setupé que tous les compteurs d'hydro sont dans mon unité à moi en bas. Puis maintenant, c'est des compteurs intelligents depuis quelques années. C'est-à-dire que, bon, les chiffres se transmettent par cellulaire, je sais pas quoi. Mais avant, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'hydro qui venait à tous les trois mois pour venir prendre en note les chiffres, ses compteurs. T'sais. À un moment donné, j'étais en train de travailler sur un album de Marc Dupré, puis ça sonne à la porte, puis c'était un monsieur qui venait. Écoute, le monsieur, il a été là pendant un gros 35 secondes. Puis Marc, il a tout eu le temps de capter son langage corporel, puis sa sonorité de voix, puis son accent, puis tout. Puis il a passé le reste de l'après-midi à l'imiter. Imiter le gars de l'hydro, là, tu sais.
Puis là, lui, il va écouter ça, il vient d'apprendre ça, qu'il s'est été imité par Marc Dupré toute une journée.
Mais là, Marc, il m'imite, tu sais. Il dit justement, il dit, t'es tellement concentré, puis t'es tellement intense en avant de ton ordi. Je suis pas capable de m'imiter moi-même, là, mais apparemment que, tu sais, des fois, je frappe fort sur mon clavier. Tu sais, quand je paye, si je paye sur stop en même temps qu'un gros kick drum dans tune, je vais fesser plus fort sur space bar juste parce que c'est sur un downbeat.
Ouais, je comprends.
En tout cas, fait que, ouais, je suis assez intense quand. quand je travaille.
Ça doit expliquer pourquoi tu es capable de faire ça aussi, de façon aussi productive.
Ouais.
Tu sais, ben, de pas comme commencer. J'imagine que tu n'ouvres pas un browser pour aller refresh ton feed sur Facebook quand tu es en train de
travailler.
Non.
Non, parce que je pense que c'est vraiment juste une question de momentum.
Ouais.
Puis j'essaie de garder le momentum pour moi-même, mais pour l'artiste aussi. T'sais. Je me rends compte que l'artiste est stimulé par cette espèce d'efficacité-là parce que il y a beaucoup d'artistes qui sont habitués au travail de studio que tout est long. Tu sais, puis tu as l'ingénieur, puis tu as l'assistant ingénieur, puis tu as le réalisateur, puis tu as la grosse console. Puis là, on veut essayer 14 micros, voir lequel micro sonne le mieux. Puis on veut essayer 14. Puis les artistes sont souvent de nature impatiente, puis impulsive, puis spontanée. Puis c'est plate pour un artiste d'être assis sur le divan pendant que tu as 14 gigs qui tournent les pitons. Tu sais. Puis je me suis souvent fait dire, parce que moi, j'ai pas vraiment vécu ça, commencer de travailler dans un gros studio avec 12 personnes qui travaillent en même temps puis qui font chacun leur petite partie du travail. Tu sais, j'ai toujours travaillé presque seul en studio puis je m'occupe de tout, tu sais. Fait que les artistes qui ont aussi connu le côté un petit peu plus plate puis long d'être en studio avec un processus plus laborieux, ils m'ont souvent commenté sur à quel point c'est le fun puis c'est stimulant d'être dans un environnement où tout se passe rapidement, tu sais. Puis c'est pas parce que je suis plus rapide que les autres, mais c'est comme si j'ai setupé mon studio d'enregistrement pour avec l'équipement que je connais, que j'ai envie d'utiliser, branché, tout est tout le temps branché pour être utilisé comme ça. Les amplis guitares sont déjà mic'és, les instruments sont tous accordés, sont tous tunés, le drum est là, il est déjà mic'é. J'ai un mes préamps favoris de voix, tu sais, j'en ai un pour la voix qui est tout le temps branché avec le micro qui est dans le boot. J'en ai un deuxième qui est branché avec le micro qui est juste à côté de nous autres. Fait que si on prend le micro juste pour enregistrer une idée vite faite, si c'était les bonnes paroles puis l'idée a été bien chantée, elle est déjà enregistrée pour pouvoir la garder sur l'album. Fait que c'est vraiment un processus qui est fait pour être efficace à cause de ma propre impatience, finalement. Moi, je n'ai pas envie d'enregistrer une maquette puis d'après ça, deux mois plus tard, enregistrer une vraie version finale de la toune alors que c'est moi qui fais tout. Je vais le faire comme du monde tout de suite, calvaire, tu sais. Fait que c'est un peu ça, une efficacité qui est un peu produit de mon impatience.
Est-ce que tu acceptes un petit peu les imperfections dans ton travail?
J'ai de la misère avec ça.
Ouais?
Ouais. J'ai de la misère avec ça.
Mettons, quand il y a une track qui n'est pas nailée à 100%, t'as refait?
Je la refais ou je l'édite ou c'est une voix qui est un peu fausse, je vais la tuner. Des fois, j'aurais peut-être intérêt à lâcher prise.
Ouais.
J'essaie de le faire. Des fois, je réussis. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je délègue plus. Puis les budgets sont de plus en plus petits, les budgets d'albums. Fait que, tu sais, plus ça va, moins j'aurai d'argent à donner à d'autres mondes. T'sais. Fait que je finis par faire un peu tout moi-même. Mais le dernier album de Ludovic, j'ai réussi à lâcher prise un petit peu puis à être un petit peu moins perfectionniste sur certaines affaires. Puis j'ai l'impression que ça respire un peu plus. C'est-tu mieux? C'est-tu pas mieux? Je pense que ça change pas grand-chose parce que, encore une fois, tu sais, je pense que si la chanson est là, la chanson est bonne, ça aurait pu être enregistré vraiment moins bien ou vraiment mieux. Puis ça n'aurait pas changé le succès de la chanson, tu sais.
Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on entend que c'est plein d'imperfections ou que c'est justement pas, pas hi-fi, là, tu sais, vraiment full mixé, léché, tout ça, puis qu'il y a une beauté là-dedans aussi souvent, là, tu sais.
Absolument. Je suis le premier à reconnaître cette beauté-là.
Quelque chose de raw, là, tu sais.
Mais je pense que faut que ce soit fait d'emblée. Exemple, souvent, ce qu'on entend, quand on entend des chansons, des enregistrements qui ont été faits, qui sont un petit peu plus slack, c'est souvent un band qui joue en même temps dans le studio. Tout le monde joue en même temps, puis ils vont chanter, ils vont faire la toune, 4-5 fois, 6 fois, peu importe. Puis après ça, ils vont écouter, puis ils vont prendre la meilleure prise, puis ça va être ça, la toune. Puis il y a une beauté là-dedans, mais je pense que faut que ce soit fait tout le monde en même temps. Puis s'il y a quelqu'un qui se trompe un petit peu ou qui fait une note un petit peu moins franche ou moins précisément, c'est compensé par le fait que tout le monde est tellement en même temps, puis tout le monde se suit, puis il y a une espèce de l'imperfection qui respire. Bon, oui, ça accélère un peu dans le refrain, mais tout le monde accélère un peu en même temps, fait que ça compense. T'sais. Alors que dans une optique plus pop, la plupart des albums pop sont faits vraiment piste par piste. Instrument par instrument. Fait que tu sais, tu commences par peut-être une track guitare-voix qui sert de guide. Après ça, tu fais la batterie qui est au métronome puis qui est vraiment tête. Après ça, tu fais la basse. Mais si la basse est pas vraiment tête, le drummer, il va pas compenser dans le refrain si le bassiste s'accélère. Le drummer est déjà parti. Sa track est faite. Okay, fait qu'il faut que le bassiste se conforme à ce qui a été enregistré d'avance. Fait qu'il n'y a plus vraiment place à l'erreur ou l'espèce d'imperfection puis l'espèce de fluctuation dans le beat, tu sais. Fait que ça donne des enregistrements qui sont plus précis, qui sont plus clean, qui sont plus francs, mais qui sont peut-être un petit peu moins organiques, tu sais. Je pense qu'il y a des musiques qui se prêtent à une approche un peu plus slack, puis il y a des musiques qui ont besoin de te revoler d'en face, comme la tonne de briques. Puis tu sais, la plupart des chansons qui jouent à la radio puis qui font des hits, c'est des chansons qui ont été faites de façon plus précise. Fait que si t'arrives avec une toune dans le même style, mais qui était faite un peu plus slack, ça a tendance à sonner amateur. Alors que si t'arrives avec une chanson folk, plus organique, mais qui a été faite de façon très rigide à la pop, quand ça... Si tu la compares avec des chansons du même style, mais qui ont été faites avec une approche plus organique, là, tout d'un coup, ça sonne stiff.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est vraiment tout le temps d'essayer de trouver la meilleure façon de représenter l'artiste puis sa chanson dans le contexte, en sachant ça va jouer où, qui va écouter ça, qui va aimer ça, qui va avoir envie de l'entendre. T'sais, c'est qui le public? Ce public-là, il écoute quoi d'autre, t'sais? Je veux dire, si tu fais une chanson pour un public qui écoute du Ed Sheeran puis du Shawn Mendes, mais tu l'enregistres pour un public qui écoute du Bon Iver, tu sais, il y a un genre de manque de cohérence. Faut toujours garder tout ça à l'esprit, tu sais. Fait que c'est pas une question de... Faut pas que ça sonne comme du Fred Saint-Gelais, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes qui m'appellent parce que j'ai fait plein de gros hits pop. Fait que des artistes pop qui m'appellent, puis on va continuer à faire des chansons dans ce style-là. Puis, tu sais, j'ai fait un album metal il y a 2 ans, puis tout ce processus-là a été ignoré complètement, puis on l'a fait vraiment comme un vrai album metal, puis ça sonne comme un vrai album metal, mais je ne mettrais pas ça sur un album de Ludovic Bourgeois.
Ouais, je comprends. Ouais, c'est vraiment passionnant, puis c'est le fun. Le musicien, à moi, apprécie vraiment tous les insights que tu es en train de donner en ce moment.
Bon, ben, puis, parfait. je suis vieux, fait que ça sert à quelque chose d'être vieux.
Ouais, ouais.
C'est l'expérience.
Pour finir, tu sais, on ne regardera pas toute la soirée, là. Mais tu sais, on a parlé depuis une heure et demie de Fred Saint-Gelais, le musicien, tu sais, mais Fred Saint-Gelais, l'humain, tu sais, ce serait le fun d'en parler un peu, mettons. Je sais que dans les dernières années, tu as vécu quand même plusieurs changements, mettons, là.
Ouais.
Puis, tu sais, je veux pas qu'on rentre dans le patinage ou quoi que ce soit, mais tu sais, tantôt, tu parlais de ça fait un grand voyage, toi, puis Marimé, à un moment donné, tu sais. Puis, à ton retour, je pense que toi, t'es reparti tout seul ou quelque chose comme ça. Ça se peut-tu?
Non, je suis pas reparti. Ah, okay. Je suis reparti après notre séparation.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ben,
premièrement, première question, qu'est-ce qui a motivé le premier voyage? Qu'est-ce qui a motivé le deuxième?
Le premier voyage, je pense que c'était une tentative de voir si, tu sais, notre couple est encore viable. Okay. Parce que,
en dehors de tout le reste, mettons.
En dehors de tout le reste, là, tu sais, mais on commençait à sentir certaines difficultés, puis on a décidé de faire ça comme une espèce de, je pense, une tentative de... Mm-hmm. de reploguer les fils qui étaient arrachés, tu sais. Puis ça l'a manifestement pas marché, mais ça a été incroyable comme voyage, tu sais. Mm-hmm. Puis ça a changé ma vie, en fait. Ça m'a préparé à ma deuxième... Tu sais, mon après-marimé, là. Dans le fond, il était préparé pendant ça. Puis ça l'a planté dans ma tête puis dans ma façon de vivre, vraiment tout le côté minimaliste puis simplicité. Puis ça l'a aussi... d'une façon contribuer à creuser le fossé entre elle et moi, tu sais, malgré qu'on a tous les deux trippé pendant le voyage. Moi, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal le tour du glam, puis j'avais fait pas mal le tour de travailler 17 heures par jour, 7 jours sur 7, puis elle, non, tu sais. Puis on avait une dizaine d'années de différence quand même, là, tu sais. Je veux dire, à l'époque, elle avait 30, moi, j'avais 40, puis j'avais 10 ans d'avance sur elle. Et elle, quand elle a commencé à travailler fort, puis à builder sa carrière. Moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais là-dedans, 15 heures par jour, puis 7 jours sur 7.
Ouais.
Fait que c'est ça. Ce voyage-là, malgré le fait que ça a été super, ça l'a quand même mis en lumière